tout à l'heure à 6h, vous pourrez suivre la rediffusion du livre du jour de Lilou Nelly d'hier matin, mais tout de suite voici la rediffusion du libre journal de Serge de Beckett d'hier soir. Vous écoutez Radio Courtoisie, très bonne nuit à tous, il est 2h.
Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz, 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, autour de la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier, sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous écoutez le libre journal de Serge de Beckett avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 29 mai de 18h à 21h, en différé jeudi 30, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.net.
Mercredi, 30 mai, bien sûr.
C'est ce que j'ai dit, non?
29.
Ah, j'ai dit 29.
Est-ce que je peux
J'ai toujours des problèmes avec le
ami de la résistance, bonsoir. Est-ce que je peux dire ça? Eh bien, parce que tout le monde... elle est là, la chaise, François.
Oh là
voyez,
là.
Je vous rends témoin de l'agitation qui dans ce studio. Vous verriez ça? On se croirait dans le grand studio de RTL, à un détail près qui va pas tarder à être réparé, je pense.
Je croyais qu'il fallait pas parler de RTL.
Mais non, j'ai pas dit ça. Il est bête. Le Prussien, avec le casque à l'envers, la pointe plantée dans la toute petite masse cérébrale.
La pointe, j'ai eu de la chance de la trouver.
Non, mais c'est pas croyable, hein. Il me gâche mes effets, mais...
Qu'est-ce que
j'ai dit? J'ai dit bonjour.
Non, vous avez rien dit.
Alors je dis bonjour. Ami de la résistance, bonsoir. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, je dis bonjour, mesdames, bonjour, mesdemoiselles, bonjour, messieurs. Et voilà.
Et bonjour.
Voilà, c'était bien. Alors, autour de cette table, dans le désordre, Bruno Maigret. Bonsoir, Bruno Maigret.
Bonsoir.
Alors, vous avez pris un abonnement, puisque la semaine dernière, vous étiez au téléphone. Là, vous êtes in persona.
Je m'en réjouis, je vous en remercie.
Moi aussi, j'ai toujours plus grand plaisir à vous voir. Et j'ai constaté, d'ailleurs, que votre intervention de la semaine dernière a été à peu près unanimement appréciée.
Écoutez, j'en suis heureux.
C'est vrai ou pas? Je tourne vers mes alcooliques. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu... une seule protestation.
Non, que dans les messages qu'on a reçus, qu'on n'a pas eu le temps de lire, etc., tout était unanime.
Non, mais on les a lus pour nous, mais on les a
pas.
Non, non, c'est vrai, c'était. Moi, mieux. Je m'attendais à avoir un petit partage en disant, ouais, mais Maigret, le félon, et puis d'autres, oui, bon, ben non, pas du tout.
Il y a même des réactions qui étaient, ça me détermine pour voter. Législatif.
J'ai entendu ça
oui,
souvent.
Oui, mais alors justement, là, je suis obligé de vous dire, enfin, je vous en parlerai après. Bon, voilà. Je continue la présentation des personnes présentes dans le désordre. Toujours François Robot. Bonsoir, François.
Bonsoir.
Tu vas nous parler de restaurants et d'un sujet très actuel, vous verrez.
C'est quoi
le marqué? Bah, vous verrez bien. On en parlera avant. Le marquis qui va s'en aller à 7h30. Jean-Pierre Rondeau, et non pas Jean-Pierre Proutot ou Paul Lemercier, non, c'est Jean-Pierre Rondeau.
Notre expert financier indépendant.
Qui va nous parler d'une initiative nouvelle, Goffman.
Présent.
Qui va parler de ce qu'il voudra, mais.
Du journal, sûrement.
Hein?
Du journal.
Peut-être veut dire tout le bien qu'il pense du livre journal.
Oui, je pense.
Victoria.
Bonjour.
Bonsoir Victoria, ça va mieux ?
Ça va mieux.
Il faut croire que ça va mieux parce qu'elle est venue à pied.
Sous la pluie.
De ses buts de Chaumont lointaines.
Je me suis fait un peu aider par le métro, vous voyez.
Ah bon, d'accord. Et puis moi-même, je vous salue à tous. On va faire comme la dernière fois parce que ça avait bien plu, on va faire les annonces tout de suite, comme ça on en est.
Oh chic alors, je ferai pas la course. Assez
voilà, alors, il faut que je les trouve d'abord, voilà. Ah. Je ne vous ai pas donné, Victoria.
Bon, vous me
donnez. Je vous en donne une, j'en lis une.
On va alterner.
Prière d'annoncer le mercredi 30 mai, ben c'est ce soir, 19h30, à la chapelle Sainte-Germaine, 19 avenue des Ternes, 75 017 Paris. Conférence de l'abbé Grégoire Cellier. Il faut préciser quand même, parce que sur son livre Benoît XVI et les traditionalistes, paru aux éditions Entrela. Voilà. Donc 19h30, 19 avenue des Ternes, chapelle Saint-Germain, 75 017 Paris. C'était bien la chapelle Saint-Germain, j'aime bien. À vous.
Alors chez la mère agitée, qui écrit toujours aussi mal, jeudi 31 mai.
Oui, mais quelle cuisinière !
Jeudi 31 mai à 20h30. Et moi, je ne lis pas sa cuisine, c'est ça le drame. Jeudi 31 mai à 20h30, le docteur Merlin. Jeudi 1er juin à 20h30, soirée Mozart. Dîner, 25 euros. Alors, inscription au 06 29 74 10 80. Mardi 5 juin, 20h30. Le jazz manouche. Mercredi 6 juin, 20h30. Cœur Montjoie-Saint-Denis. Dis donc, il y en a du beau monde. Pour le docteur Merlin, le jazz. Manouche et le cœur Montjoie, soirée 30 euros, je sais pas quoi compris, vin aussi, ah bon ça doit être le manger compris, vin aussi, inscription au 01 43 35 56 64.
On parle pas de manger dans un restaurant gastronomique comme la mère agitée, voyons Victoria, le marquis est scandalisé. Là. Notre chroniqueur gastronomique François Robot
regardait d'ailleurs.
Pleure des larmes de sang.
Le père tranquille va se retourner dans sa
tombe.
Prenez le siège et puis vous le donnerez à Rémo pour la nuit tout à l'heure.
Notre ami le père tranquille qui a quand même
qui a éduqué
la mère agitée et qui l'a terriblement agitée d'ailleurs.
Elle est plus agitée que mère, ça c'est sûr.
Et donc, le père tranquille, Jean, si tu nous entends, comme dirait Drucker, ça se fait beaucoup à la télé, pardonne-nous.
C'est ADG qui avait surnommé Valérie la mère agitée. Ouais.
C'est drôle, d'ailleurs.
Oui, il avait un certain talent. Hein.
Je pense, oui. Ouais.
Mais alors, Mozart chez la mère agitée, en quoi qu'il était un peu...
Pour en savoir plus sur ADG.
Ça serait pas mal que Mozart soit au piano chez elle.
Ah oui, très bien, un piano, oui. Jeu de mots.
Un site internet pour vengeradg.com.
Oui, pour les amateurs d'ADG, il y a un site internet pour vengeradg en un seul mot, .com. Et puis il vient de publier, enfin pas lui personnellement, parce que pour l'instant il est retenu à d'autres activités, on vient de publier de lui son dernier roman, qui est un roman posthume, J'ai déjà donné, ça s'appelle, et c'est formidablement écrit. Je crois que c'est son meilleur bouquin.
Bah écoutez, il a recueilli les louanges du Figaro, littéraire et de libération, d'une même voix.
Alors je suis quand même obligé d'apporter une précision d'ordre personnel, c'est que il s'est installé l'idée que j'avais inspiré, c'est pas totalement faux, mais le personnage de Machin, Sergueï Djerbiskine, qui était le personnage de...
D'un ivrogne
boiteux.
Méchant.
Et je le découvre dans la DG, dans J'ai déjà donné, un petit peu pédomane sur les bords.
Ah, carrément.
Alors, il faut quand même que je précise que c'est ce qu'on appelle un portrait charge. Hein. C'est pas totalement conforme à la réalité.
ADG était votre ami d'enfance, je crois, ça expliquerait bien les choses. Un jour, je descendais une rue et puis je vois un gosse qui en étrangle un autre, mais violemment. Je m'approche, inquiet, et l'étrangleur se retourne et me dit « C'est mon frère, monsieur. » Je dis « Ah bon, bah, je vous laisse tranquille. »
C'est orphaline. Oui, ma femme nous appelait les Bessons, ADG, moi, on était... Mais enfin, on était fâchés à peu près 6 mois par an. Non,
hein. Et puis après, ça se recollait.
Et puis après, on était re-amis. Là, comme son bouquin, il l'a écrit dans une période de grosse fâcherie, je peux pas dire que le personnage de Machin... Là, il m'avait dit, je me servirai de Machin pour régler ton compte. Et ben, c'est assez réussi, d'ailleurs. Le bouquin commence par la découverte de restes qu'on pense être ceux de Sergueï Djerbiskine, bouffé par les cochons. Donc vous voyez tout de suite l'ambiance. Bon, cela dit, c'est un formidable bouquin, vraiment formidable. Alors, quelle belle écriture, oh là là. C'était pas la peine de me faire autant d'histoires pour être journaliste, alors que t'étais un grand écrivain. Hein. T'aurais dû te contenter de ce que t'avais, Alain. Enfin voilà, donc ADG, j'ai déjà donné aux éditions Le Dilettante.
Qui ont déménagé 19 rue Racine, à Paris 6e.
On reviendra.
Pédomane, le dilettante, tout y est.
Est-ce qu'on peut, Serge, faire annoncer la fête du CNC sans que Bruno Maigret m'arrache un œil?
Je pense pas, mais il est tout à fait
pas de problème. Ouais. Problème.
Ah. De Borgne.
Mais ce sera dimanche prochain, 3 juin, au domaine de Grand Maison à Villepreux.
Ne passe pas les bornes. Hein.
Eh bien si, justement, il y aura un discours de Roger Hollande et de Jean-Marie Le Pen, donc au domaine de Grand Maison.
Vraiment.
À Villepreux, j'ai lu le Charlie Hebdo aujourd'hui pour préparer l'émission, alors je suis influencé. Voilà. Par ailleurs, le même dimanche 3 juin, faites votre choix à Bordeaux, à proximité immédiate de Bordeaux, à Mérignac, exactement au château Pic-Caillou, Anne Brassier rassemble de nombreux écrivains et journalistes pendant toute la journée. Messe à 11h, pique-nique tiré du sac, intermède poétique à 15h. Un numéro de téléphone, 05 56 97 84 67. J'articule et je ralentis parce que j'ai eu pas mal de plaintes de gens qui trouvent qu'on est trop brillant, trop rapide et impossible.
Trop bruyant.
Impossible à suivre, impossible à noter. Alors, chers auditeurs, papier-crayon, tenez papier-crayon, prêt, parce qu'il y a sûrement quelque chose que vous aurez à noter au cours des 3 heures qui viennent.
Oui, je dois annoncer aussi le meeting de Jean-Marie Le Pen, le meeting de clôture de la campagne législative. Seulement, j'ai envoyé un papier ici par Internet, par courriel, et j'ai l'impression que le courriel ne fonctionne pas.
Moi, je sais qu'il est à Paris, à la salle de l'Équinoxe, près de la place Ballard, à 16h30, samedi. Il y a un programme que vous risquiez pas de retenir, parce que ça remplit toute une page de National Hebdo, et on a l'impression que on ne sait quel héritier ou héritière veut hériter plus rapidement que prévu, parce que c'est démentiel, quoi. C'est 2 villes par jour, écartées de 300 km. Il a loué un avion, d'accord, mais enfin... c'est un programme démentiel, quoi. Il va tenir 2 meetings par jour pendant 15 jours.
Le soupçon que vous venez d'émettre est d'une gravité extrême.
Alors je retire.
En abandonne la responsabilité, mon cher.
Alors je retire ce que j'ai insinué.
Patrick Coffin, même Bruno Maigret est choqué. Regardez, du coup, il a l'air choqué. Bien. Quoi d'autre encore? Non, c'est tout. Pour l'instant. Oui, c'est là que je voulais vous dire. À l'occasion des législatives, le CSA a transmis ses instructions aux radios libres. Cherchez l'erreur. Donc en gros, voilà, il faut recevoir tout le monde comme autant, etc., etc., etc.
On est mal.
Mais si on les invite et qu'ils viennent pas, ils les avaient invités.
Alors moi, je prends l'engagement formel de recevoir
tous les gens de droite,
de recevoir les candidats de gauche et d'extrême gauche aussi souvent que les radios d'extrême gauche et de gauche recevront les candidats de la droite. Comme ça,
on ne peut
pas tranquille. Voilà, puis de toute façon, je n'ai plus d'émission avant le premier tour, c'est la dernière.
Vous ne trouvez pas que c'est antinomique, quand même, les instructions pour des radios libres?
Ça, j'ai dit chercher l'erreur. Voilà, Raymond Forlani qui fait son entrée. Bonsoir, Raymond.
Bonsoir.
Asseyez-vous, si vous voulez. Vous avez une place qui est quasiment une place d'honneur, puisque vous êtes en haut de table. Alors, Raymond Forlani, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un homme de radio, de télévision, de théâtre, de littérature, de dessin.
Un homme mouillé par la pluie.
Et mouillé par la pluie. De dessin qui vient de publier, enfin qui a publié deux bouquins absolument ravissants, 425 chats, leurs chiens et autres bestioles, et comme chien et chat. Alors c'est très bien fait, ce sont des aquarelles, et avec des dessins délicieux. Il y a par exemple un chaton qui dit à son père qui est en train de faire sa toilette, moi quand je serai grand, je serai sale. Voilà. Enfin, on va en parler tout à l'heure avec Raymond de cette passion pour
les chats. Je vous écoute.
Et puis on parlera d'autres choses. Donc, vous voyez quels sont les invités.
J'ai l'impression que je les connais, oui.
Oui, il y a des gens que vous connaissez, dont vous avez entendu parler probablement.
Sans doute.
Alors, je disais que, bah oui, nous tiendrons le plus grand compte des directives du CSA, parce qu'il ne faut pas rigoler avec ça.
Donc, il faut commencer par inviter le majordome de M. Le Pen qui se présente contre Benoît Maigret à Vitrolles, sinon c'est pas équitable parce qu'on lui casse du sucre sur le dos depuis une semaine.
Ah, moi je ne casse rien sur personne.
Je suis sûr que c'est un homme d'une rare éloquence, un tribun du peuple.
Mais c'est possible. D'ailleurs, j'ai une certaine admiration pour Jean-Marie Le Pen qui n'hésite pas à se priver de son personnel de maison. Pour l'envoyer au combat.
C'est une promotion, ça. Hein? C'est une promotion. Là.
L'ascenseur social, ça marche, à mon
encore
retour.
Élu. Non, il faut pas.
Ah bon.
Non, c'est probable, mais voilà. Alors, j'ai d'autre part le plaisir de vous annoncer que la Catholic Anti-Defamation League, Ligue catholique contre la diffamation, vient d'être constituée en Italie. Ça s'appelle la CADEL, Catholic Anti-Defamation League, tandis qu'en Italie, je vais vraiment voir pourquoi il s'appelle d'un nom anglais, mais enfin.
Ah, ça, c'est une manie, Serge. Ils ont, rappelez-vous, le 12 mai, ils réunissent 700 000 personnes pour la famille traditionnelle et ils appellent ça Family Day. Alors que la familia, c'est quand même autre chose, n'est-ce pas, Raymond Forlani?
Le jour où on va faire une marche pour la paix, on va l'appeler la PEDAI, alors.
La PEDAI, oui. Hein? C'est la Camorra, la familia, attention.
ADG voulait organiser la Goy Pride.
Oui, mais c'est, d'ailleurs, vous voyez ce que ça lui a rapporté. Voilà, bon, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour l'instant sur le sujet. Dans l'actualité, il y a quand même une actualité qui me plaît énormément. Moi, je suis contre les banques, mais pas autant que les banques sont contre moi. L'histoire des assurances crédit, là. Peut-être que notre excellent camarade Jean-Pierre Rondeau pourrait nous en dire deux mots, non ?
Ben non, je préfère vous laisser parler d'abord, disiez du mal, et après peut-être je vous contredirai. Mais...
Alors en gros, ce que j'ai compris, moi, c'est que les assurances, quand les gens qui ont fait des emprunts n'ont pas eu la bonne idée de mourir avant de rembourser leur emprunt, les assurances font un gros bénéfice et elles sont obligées, de par la loi, de retourner une partie du magot aux assurés. Elles le font par l'intermédiaire des banques qui prêtent l'argent pour acheter les appartements et qui sont censées aussi réintégrer le fric sur le compte des clients. Or, les banques, elles reçoivent l'argent des assurances, qui elles sont honnêtes, et elles ont oublié complètement de rendre ce fric à leurs clients. Ça représente quand même 11 milliards 500 millions d'euros. Ce fric, je vous signale que toutes les giries qu'on nous fait en ce moment autour du jour de la Pentecôte, chômé, pas chômé, chômable, payé, pas payé, j'ai absolument jamais rien compris à cette histoire. On travaille gratuitement pour payer la retraite des vieillards. Enfin, j'ai rien compris à cette histoire de Pentecôte. Travailler gratuitement, ça me paraît. Ils n'ont qu'à venir au Libre Journal s'ils veulent travailler gratuitement, demander à Goffman. Eh bien, là, c'est 11 milliards à faire, c'est 6 fois, pratiquement 6 fois. Le jour de la Pentecôte. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ils gardent en plus le fric. Est-ce que les banquiers seraient malhonnêtes ?
Non, mais ah, c'est bon. Aussi... Il y a des banquiers malhonnêtes, bien sûr. C'est aussi bidon que l'affaire que nous avions évoquée il y a maintenant 2 ou 3 mois, qui était les fameux comptes... les contrats en déshérence des compagnies d'assurance, où on avait découvert que tout d'un coup, il y avait des milliards. C'est une affaire politique, une fois de plus. Alors, agitée certainement par la gauche, parce qu'il faut agiter avant les élections législatives, donc le peuple. Vous avez dit donc quelque chose qui est faux, et qui est faux d'ailleurs dans l'article que vous avez sous les yeux, c'est que on ne parle pas d'assurance vie ici, on parle d'assurance risque. C'est un risque qui est couvert, et l'assurance risque, en aucun cas, il y a un retour vers les provisions des compagnies d'assurance. Donc c'est l'assurance vie qui est concernée et non pas l'assurance décès. La deuxième chose qu'il faut rappeler...
Déjà, bon, je sais pas, pour moi, l'assurance vie et l'assurance décès, c'est la même chose, mais enfin...
Non. Alors là, les assureurs ont, à la fin de... Après-guerre, ont eu tendance à tromper les Français.
Si vous permettez, quand même, je fais une petite parenthèse. Hein? Il paraît que les assureurs sont des gens avisés. Or, d'après... Ça dépend, oui, avisés. Ça dépend à qui... qui ont fait confiance. Enfin, moi qui suis créationniste et qui sais donc que le monde a 6000 ans, je pense qu'il y a 6000 ans à peu près, les gens meurent. À une ou deux exceptions près, d'ailleurs assez célèbres, on sait que les gens meurent. Et donc, le fait de dire « je fais une assurance pour payer les gens quand ils vont mourir », ou c'est une arnaque ou c'est une connerie, il n'y a pas de milieu. Quoi. Il faut être complètement idiot pour assurer les gens contre quelque chose dont on est absolument certain que ça va arriver. Hein, c'est bon. Donc déjà, si c'est comme ça, c'est qu'il y a une arnaque planquée. Voilà. Maintenant, ça, c'est la
chose. Cher Serge, je voudrais que vous m'écoutiez quand j'interviens.
Ben voilà, je faisais une
parenthèse. Je parle pas aujourd'hui, mais les autres fois où j'ai un peu travaillé pour vous. Donc, l'assurance vie, c'est l'équivalent d'une ce qu'on appellerait aujourd'hui, par exemple, les fonds de pension américains. On prépare pour un moment donné, que ce soit à la sortie de sa vie professionnelle, soit plus tard, on économise un capital, on met de côté un capital pour le récupérer. Alors, on peut le transmettre par des avantages de transmission à ses héritiers ou à qui l'on veut, mais c'est de l'argent qu'on économise et moyennant
jusqu'à sa mort,
ou on peut l'arrêter à tout moment, on peut mettre aussi un capital une fois, mais en tout cas c'est de l'argent qu'on met de côté, on place de l'argent, donc moyennant des frais, moyennant une gestion, etc., on va récupérer au bout du compte un capital. Ça a été fait à l'origine pour compléter des retraites pour des professions qui n'avaient pas de retraite, comme les commerçants, les artisans, les agriculteurs et les professions libérales. Bon, après, elle a été un peu dévoyée. Ensuite, il y a l'assurance décès, qui est l'assurance risque. C'est la même chose que votre voiture ou votre maison. Si vous avez un pépin, donc vous mettez de l'argent de côté, vous vous dites, si j'ai un pépin, je veux que mon épouse touche un capital, je veux que mes enfants aient une rente, par exemple, pour étudier jusqu'à la fin de leurs études scolaires. Et donc, ça, c'est un risque. Vous couvrez un risque. Et donc, vous payez une cotisation. Elle est à fond perdue. Et elle est perdue. Et chaque année, vous pouvez changer facilement d'assureur, puisque chaque année, vous la renouvelez ou vous ne la renouvelez pas. Le seul problème, c'est que les assureurs, après la guerre, ont eu tendance à faire confondre aux Français, sous le mot assurance vie, l'ensemble des deux. Mais c'est deux assurances différentes. Et pourquoi ils faisaient confondre? Parce que ça permettait de prendre des frais sans que les gens s'en rendent réellement compte. Depuis les années 80, début des années 80, fin des années 77, l'assurance est devenue beaucoup plus morale. Et aujourd'hui, il y a des contrats séparés, des contrats mixtes n'existent pratiquement plus. Donc, quand vous économisez de l'argent pour récupérer un capital, il est logique qu'à un moment donné, s'il y a des bénéfices qui sont tirés, qu'une partie revienne à l'ensemble des assurés, puisque c'est quelque chose de collectif. Si vous êtes dans une assurance à fond perdu, elle est à fond perdue. Les banques, effectivement, ont effectivement touché un bonus, parce qu'il y a eu moins de morts, si vous voulez, que de couverture prise. Elles ont touché un bonus, mais il faut savoir que les banques, gratuitement, sur ces assurances qu'elles prennent en complément de leur crédit, ne prennent pas de frais.
C'est les yeux qui se mouillent.
Mais que la France est le pays, dans le monde certainement, mais en tout cas sûrement en Europe, où les assurances de crédit sont les moins chères. Voilà.
Voilà, donc on est content. Enfin, je constate quand même une chose, c'est que moi, personnellement, je connais plusieurs personnes dont la maison n'a jamais brûlé, qui avaient une assurance incendie. Je connais même des gens qui ont une assurance voiture et qui n'ont jamais eu d'accident sur... bon, ça, c'est... Mais je ne connais absolument personne qui ait pris une assurance d'essai et qui ne soit pas mort.
L'assurance d'essai, je vous ai dit qu'on la renouvelle chaque année. Et à partir d'un certain âge, souvent 65 ans, certaines compagnies peuvent aller un peu plus loin, mais à partir de 65 ans, en général, les crédits, par exemple, on vous assure jusqu'à 65 ans. Enfin, vous pouvez prendre une assurance crédit jusqu'à 65 ans et elle va vous couvrir au maximum jusqu'à 70 ans. À 70 ans, vous n'aurez plus la couverture de crédit.
Ah ben voilà, c'est bien ça. C'est c'est des gens qui vous prêtent un parapluie quand il pleut pas, quoi.
Moi, je connais, vous savez, j'ai quand même plus de 30 ans de métier. Je connais pas mal de gens, par exemple, de veuves qui se sont retrouvées veuves et qui ont été bien contentes parce qu'elles ne travaillaient pas avec le mari, avaient une grosse vie, un gros salaire et ce qui leur avait permis d'acheter une belle maison. Eh bien, de ne pas avoir à payer le crédit et de ne pas être expulsé de la maison parce qu'il y avait une assurance crédit.
Bien, bon, bah, alors on est content. Alors, oui.
Pour M. Rondeau, pouvez-vous rappeler la somme colossale que coûte l'affaire du lundi de Pentecôte? Non. Ah ben,
pour l'instant, des chiffres, c'est un peu incalculable. Vous avez vu que le ministre va faire un espèce d'audit pour essayer de voir avant de prendre une décision.
Moi, ce que j'aime bien dans cette histoire du lundi de Pentecôte, c'est que je me souviens quand j'étais gosse, on disait « gouverner, c'est prévoir », on nous appelait ça en morale, hein. Et puis là, il y a un clampin. Je me souviens plus qui c'était. Vous rappelez quel est l'imbécile qui avait décidé ça, faire le lundi de travail.
C'est
Raffarin, mmh. C'est ça. Bon, ben alors donc je regarde pas, je retire pas ce que j'ai dit. Et alors, alors donc il décide qu'on va travailler le lundi de Pentecôte. Et trois ans plus tard, c'est ça. Il y a un autre ministre. Je change mon vocabulaire. Qui dit. On va réfléchir pour voir si, par hasard, il n'y aurait pas un petit défaut. Oui, il y a comme un défaut, quoi. Ça me paraît absolument évident. Mais en attendant, c'est un bordel noir. Noir, c'est-à-dire qu'il y a des écoles où on reçoit les enfants. Il y a des écoles où on ne les reçoit pas. Il y a des écoles où il y a des cours. Il y a des services qui sont ouverts, mais personne n'y va.
C'était très révélateur de la façon dont la politique fonctionnait jusqu'à présent. On va voir si ça va changer, sûr.
Mon cher Bruno,
ils se sont aperçus que les Français ne travaillaient pas assez, et au lieu de supprimer les 35 heures, ils ont voulu supprimer le lundi de Pentecôte. Suscité un tollé, et immédiatement, ils ont fait marche arrière, et ils ont décidé, ça sera un peu férié, mais pas totalement. Et voilà. Et aujourd'hui, on s'aperçoit effectivement, comme vous le disiez, que c'est un bordel noir.
Mais il faut dire, par exemple, je me souviens, il y a 3 ou 4 ans ou 5 ans, il y avait un truc qui avait circulé en disant en France, maintenant, on va modifier les règles de la priorité. C'est-à-dire, ce sera plus priorité à droite, ce sera priorité à gauche. Mais pendant quelques temps, pour que les gens s'habituent, ce sera... un peu des deux, ça, tantôt à droite, tantôt à gauche, c'est comme on voudra, quoi. Bon, voilà, c'est un peu ça, hein.
Ça, exactement.
Voilà. Aussi, on pourrait dire aux Anglais, à partir de quand vous voulez, vous roulez à droite, vous. Et à ce moment-là, on dit aux gens, écoutez, on va pas vous forcer, hein, c'est comme vous voulez. Si vous avez envie de rouler à gauche, vous continuez. Si vous préférez être moderne, vous roulez à droite. Et on peut voir le résultat. D'ailleurs, ça ferait peut-être disparaître les accidents, parce que les gens seraient peut-être prudents.
Un autre résultat, Serge, il faut aller le chercher dans les maisons de retraite, bien entendu. Alors, il y a d'autres radios plus puissantes que nous qui l'ont fait, et tous les directeurs de maisons de retraite interviewés ont dit « l'effet est nul ». Nous n'avons pas vu un sou, la vie des personnes âgées n'a pas changé d'un iota.
Qu'est-ce qu'il attendait? Il fallait avoir du champagne à tous les repas. Youpla, confetti, langue de belle-mère. Nous avons gagné de l'argent. Non, ils nous ont fait déjà le coup avec Remo Farlani qui était déjà.
Moi, j'ai une personne âgée, je vous
avec, non, oui, mais c'est pas ça que je faisais allusion. Je parlais de la vignette. Vous étiez dans la pleine force de votre âge quand la vignette a été votée, la fameuse vignette automobile qui était censée financer.
J'ai pas d'automobile, j'ai pas de vignette.
Ah oui.
Mais je suis vieux.
Donc vous recevez le pognon là de la vignette?
Pas vraiment.
Non. Ah ben voilà, c'est ça.
On va voir. Bon, j'attends la suite.
Je pense qu'il faudra attendre un moment, effectivement. Donc tout ça pour dire que on est pourtant on est gouverné par des énarques. Normalement, ça devrait marcher mieux que ça, Bruno Viret. Non?
Bah écoutez, l'expérience montre que c'est pas le cas. Hein.
Bon, alors. Un polytechnicien, Bruno Legray.
Polytechnicien, c'est différent.
Ça serait tellement mieux.
Sûr, oui. Bon, bah, puisque vous avez la parole, je vais vous la laisser et je vais vous demander comment se prépare ces législatives pour vous.
Bah écoutez, elles font plus que se préparer, puisque maintenant oui, nous sommes à 12 jours du scrutin, nos candidats sont en lice, les matériels sont distribués, et nous sommes en train de faire campagne avec les moyens qui sont les nôtres. Donc nous avons un peu plus de 420 candidats à travers le pays, et je pense que c'est très important de voter MNR. C'est très important d'abord parce que je crois qu'il faut donner un coup de semonce, un message fort à Monsieur Sarkozy et à ceux qui croient que tout est arrivé. Moi je dis aux Français surtout ne donnez pas de blanc-seing à Sarkozy car ceux qui ont voté pour lui pensant que les choses allaient changer, pensant que certaines de nos idées allaient être mises en œuvre, doivent être extrêmement prudents. Moi j'ai été ne faisons pas de procès d'intention, mais parlons uniquement des faits. Voilà un homme qui est élu avec en partie des voix de la droite nationale et qui ouvre son gouvernement à la gauche socialiste. Alors, c'est déjà très curieux. Je ne suis pas contre l'idée, quand on est élu président de la République, qu'il faut rassembler, qu'il faut réunir le peuple français, qu'il faut chercher la cohésion nationale. Très bien, mais si on veut rassembler, pourquoi rassembler en s'ouvrant d'un côté et pas de l'autre? Pourquoi vouloir faire rentrer des ministres socialistes et, à la limite, pourquoi pas des ministres de la droite nationale? Je ne dis pas que nous aurions accepté, ça c'est une autre question, mais pourquoi n'a-t-il pas fait ce geste-là?
François Hollande a répondu à votre question, Monsieur Maigret, en disant que Sarkozy faisait ça pour déstabiliser la gauche, et ça a l'air de marcher, quoi. Elle est dans un terrible état, divisé.
Oui, mais je pense que préoccupation numéro un de Sarkozy ne doit pas être de déstabiliser la gauche, mais de gouverner la France.
Déstabiliser la France.
Alors moi, ce que je constate entre nous, c'est que la déstabilisation, elle est aussi à l'intérieur de la nouvelle équipe gouvernementale. Il fait rentrer le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Kouchner, un socialiste dans le gouvernement qui est pour l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Il lui adjoint M. Jouyet, ami de Hollande et de Royal, qui est ministre des secrétaire d'État aux Affaires européennes, qui est pour l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Et lui continue à prétendre qu'il est contre l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Si c'est pas déstabilisant ça, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, le résultat, je vous le signale, c'est que au mois de juin, dans quelques jours après les élections, la France va donner son accord à l'ouverture de nouveaux chapitres pour les négociations d'entrée de la Turquie dans l'Europe.
Mais c'est évident. Et je relisais les déclarations de Juppé à propos de la Turquie, notamment. Alors c'est quand même assez intéressant parce que Juppé, il n'a pas déclaré ça en France, il est allé déclarer ça au Canada dans une conférence privée organisée par Hydro-Canada ou je ne sais quoi, qui est une boîte une boîte mondialiste qui vend l'eau, qui ne lui appartient pas, bien entendu, mais enfin ça c'est pas gênant. Et donc il a fait une conférence dans laquelle il dit je ne suis pas de ceux qui disent qu'il ne faut pas que la Turquie entre dans l'Europe. Donc lui, il est partisan de l'entrée de la Turquie dans l'Europe, il l'a démontré dans ce discours qui est intéressant, hein, il faut le lire, où il donne toutes les mauvaises raisons qu'il y a, il le dit lui-même, je vais vous indiquer les mauvaises raisons qu'il y a de s'opposer à l'entrée de la Turquie dans l'Europe, et les bonnes raisons qu'il y a d'accepter cette... Bon. Donc, il a son principal ministre, car c'est vraiment une opération extraordinaire, l'opération Juppé, hein. Il a son principal ministre qui est plus important que Fillon c'est une marionnette là-dedans, qui est pour la Turquie. Il a, vous l'avez dit, le ministre des Affaires étrangères qui est un agent de l'intégration de la Turquie, puisqu'il est aux ordres de puissances qui exigent, elles, l'intégration de la Turquie pour des raisons qu'on peut expliquer. Et il continue à faire semblant d'être contre, alors que... Oui, Jean-Pierre.
Je voulais juste dire, il y a aussi quelque chose qui semble échapper à tout le monde, mais son premier discours, une fois qu'il a été élu, il a relancé l'idée, il a repris l'idée complète de Chirac, je vous rappelle, sur la communauté euro-méditerranée, et dont que Chirac voulait absolument signer, qui n'a pas été signé grâce à Bouteflika, qui demandait vraiment trop. Mais et dans la communauté euro-méditerranée, Chirac introduisait la Turquie, donc ce qui est un peu bizarre, mais absolument. C'était comme ça.
Absolument. Il y a une phrase qui est extrêmement révélatrice dans le projet, non pas de Sarkozy, mais dans le projet de l'UMP, qui a au moins le mérite d'avoir été mis noir sur blanc de façon un petit peu formalisée. Sur cette question-là, il est écrit « afficher notre opposition à l'entrée de la Turquie dans l'Europe ». C'est quand même très révélateur. Ils ne disent pas « s'opposer », ils disent « afficher leur opposition ». Alors oui, ils se racontent, mais ah, les choses se feront. Or, les Français doivent savoir que sur cette question, du jour au lendemain, le président de la République française peut régler le problème. Car aucun pays ne peut rentrer dans l'Europe sans qu'il y ait l'unanimité des États membres pour donner son accord. Et il suffit donc que le président de la République dise demain matin, au nom de la France, nous sommes opposés à l'entrée de la Turquie. Il n'est donc pas nécessaire de poursuivre les négociations. Et c'est d'ailleurs un minimum de respect à avoir à l'égard de la Turquie de ne pas les embarquer dans des négociations difficiles et longues pour finalement un résultat qui, de toute façon, ne débouchera pas puisque nous sommes contre. Et par conséquent, il faut tout arrêter. Et si la France dit ça, tout s'arrête. Donc Sarkozy a parfaitement les moyens, c'est au moins l'un des domaines européens où la France a tout pouvoir, Sarkozy a tous les moyens d'arrêter ça. S'il ne le fait pas, c'est parce qu'il ne veut pas le faire, et parce que sur ce point précis, qui est quand même un point majeur, il ne tient pas ses promesses.
Moi je crois que s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il ne peut pas le faire, parce qu'il a été porté au pouvoir par des forces qui ne l'ont pas mis au pouvoir pour ça, pour faire ça. Et on va publier dans le numéro qu'on boucle demain du Libre Journal un papier très long, un papier de 10 pages qui explique qui et de quelle manière ce qui gouverne la France à travers Sarkozy, ouais. qui est un gauleiter, enfin un proconsul. C'est parfaitement clair.
Et parlons du Libre Journal numéro 409 pour les auditeurs qui voudraient le commander.
Et il est absolument clair quand on voit, quand on lit les propos qu'il a tenus, quand on voit les rencontres qu'il a eues avant même d'être élu, qu'il a été mis en place pour faire ce boulot et qu'au fond, ces gens-là se contrefichaient de savoir si ce serait Sarkozy ou Royal. Ils avaient deux fers au feu, et quelques fers que les Français choisissent, de toute façon, ça leur brûlerait les fesses. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, évidemment, il y a un discours, ce qui est frappant, c'est qu'il y a un discours de Sarkozy, qui est un discours extrêmement plaisant, dynamique, jeune...
Électoral, disons le mot.
Oui, électoral, mais aussi, espèce de grand numéro de président copain, comme ça, il s'arrête, il dit, il va voir les gens, il leur serre la main, et alors les gens disent, il est formidable, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est aimable, et tout. Mais c'est parce qu'avant, il inaugurait les chrysanthèmes, le président. Bon, oui. Maintenant, il fait ça. Mais la réalité du pouvoir, elle n'est pas dans ses mains, et par conséquent, il fera où on lui dira de faire, à ce qu'on lui dira de faire, ça, c'est absolument certain. La meilleure preuve, c'est le choix de ses ministres.
Oui.
Il y a eu, et puis tout ça, il y a un cinéma aussi. Quand on nous a dit qu'il allait prendre Védrine comme ministre des Affaires étrangères, il n'en a jamais été question une seule seconde. Jamais. Dès le début, c'était convenu que ce serait Kouchner. Et si on a lancé Védrine, c'était pour permettre de détourner complètement l'attention de la seule véritable nomination capitale de ce gouvernement, qui est Juppé. Le reste n'a strictement aucune importance.
C'est vrai, c'est vrai. Et je disais tout à l'heure, je stigmatisais l'ouverture de ce gouvernement à gauche, mais si vous rajoutez à ces quatre ministres socialistes les ministres centristes, si vous rajoutez à ces ministres les femmes qui sont là pour faire le quota, et si vous rajoutez à cet ensemble les ministres chiraciens, il ne reste plus beaucoup de ministres qui incarnent la ligne qui a été celle de la campagne présidentielle de Sarkozy.
Parce que en ce qui concerne les femmes notamment, il y a quelque chose qui est... Il y a beaucoup de femmes très compétentes en politique. Hein. Mais le choix qu'il a fait de Bachelot, qui vient se ridiculiser sur toutes les antennes en disant, en expliquant long, large et en travers ce que sera justement la réduction... la défiscalisation des intérêts d'emprunt immobilier, et qui se prend un aller-retour deux jours plus tard où Sarkozy dit clairement qu'elle a dit des choses qu'elle pouvait pas savoir parce que c'était pas ça qu'il voulait faire, etc. Quand on voit Madame Boutin, c'est pathétique. Enfin, j'ai l'impression qu'on lui aurait donné, on aurait créé un ministère des dames pipi. Elle acceptait, elle arrivait avec sa petite soucoupe.
Et voilà du Boutin. Voilà.
Et quand on voit Madame comment elle s'appelle
Rachida
Dati. Alors, croyez-moi, il n'y a aucun racisme dans mes propos. Vraiment, je n'ai pas du tout ça en tête. Mais Madame Rachida Dati, elle a commencé comme vendeuse en charcuterie. C'est quand même pas le cursus normal pour faire un garde des Sceaux. Enfin, faut quand même pas déconner.
Elle pactisait avec le cochon. Quoi?
Elle, c'était pour payer ses études.
Mais arrêtez, elle a fait aucune étude. C'est Bac plus 2. Elle a même pas une maîtrise de droit. Moi, je serais magistrat. Je serais
sûr.
Mais enfin, elle a rien. Elle a aucun diplôme.
Elle est magistrat. On n'est pas magistrat avec.
Elle est magistrat par le concours intérieur. Elle a fait 2 ans à l'école de magistrat. Ça ne tient pas debout, cette histoire. C'est scandaleux. C'est déshonorant pour les magistrats de leur coller un garde d'ailleurs de plus de temps.
Enfin, elle a pactisé avec le cochon au début. Déjà,
c'est invraisemblable. On a le ministère le plus grotesque, le plus incompétent, le plus ridicule qui soit. Dirigé par un président de la République qui est un pantin, qui est un guignol. Regardez son comportement, roi du jogging. Enfin, ça tient pas debout tout ça. Mais ce qui est fascinant, c'est que les Français trouvent que c'est génial. Ils sont contents. Ils ont un président jeune et modèle.
Ça ne durera pas parce que Sarkozy le matin, Sarkozy à midi, Sarkozy le soir, 7 jours sur 7, 30 jours par mois, 365 jours par an.
Comme disait lundi du mouton, mardi du mouton, mercredi du mouton.
Je trouve pas ça génial, mais je trouve ça assez convenable quand même. Je vous entends et je trouve en fait un peu beaucoup là.
À quel point de vue?
Je sais pas, Rachida Dati, elle me déplaît pas tant que ça. Bon, mais si non, vraiment. Non, mais attendez, je suis pas venu pour faire de l'opposition.
Non, mais allez-y, vous avez le droit à la parole, bien sûr.
De Radio Contadine. Sauf vous poussez un peu là quand même. Voilà. Excusez-moi de le dire là, vous poussez un peu. Vous dites que Sarkozy, il est là parce qu'on l'a mis. Qui l'a mis?
Nous.
Il faut lire le Libre Journal.
Comment? Mais je lis le Libre Journal. J'ai la collection complète chez moi. Bon, ceci étant dit, vous êtes bien gentil, mais c'est qui? C'est le bon Dieu, c'est le Klu Klux Klan, c'est Bush, c'est qui?
C'est ni le bon Dieu, ni le Klu Klux Klan.
Mais c'est qui?
C'est toute une série.
Je suis pas venu ici pour faire mon gauchiste.
Non, mais je vais vous le dire.
Mais je vous écoute pour une fois. Je vous écoute tous les jours. Toutes les semaines, vous.
Il faudrait que je vous lise 10 pages du Livre Journal, ça ferait quand même beaucoup.
Mais attendez, je lis le Livre Journal, je peux tout vous dire. Le marquis où il a dîné, je peux tout vous dire. Bon, je suis pas... J'en ai marre quand on dit que les Français sont des cons, je suis Français. Bon. Quoi qu'il soit d'origine italienne, ce qui déplaît à Le Pen, j'aime bien Le Pen quand même. Oui. Mais arrêtez de dire certaines choses ou alors donnez-moi des preuves. Bon, Sarkozy, on l'a mis là. Qui l'a mis là?
Ce qui l'a mis là, c'est tout un travail de mise en place et de promotion qui a été mené.
Peut-être Maigret le sait, je ne sais pas. Mais je veux dire, bon, moi, Sarkozy, je m'en fous, je ne connais pas. Je ne connais pas, mais qui l'a mis là? Bon, de toute façon, il a servi à quelque chose. Goffman m'a dit, il est en train de casser la gauche, c'est déjà quand même pas mal, vous ne devriez pas gueuler sur lui à cause de ça. Bon, alors maintenant, qui l'a mis là?
Oui, il casse la gauche.
Excusez-moi, j'étais vraiment pas venu pour parler politique.
Non, mais on va y revenir. Je voudrais simplement que Bruno Maigret puisse terminer, puis après on reviendra sur cette question qui
est
très importante. Parce que Maigret doit s'en aller, voilà.
Je voulais aborder un autre sujet, non pas que ce sujet-là ne soit pas important, mais une autre raison importante pour lesquels j'invite ceux qui nous écoutent et l'ensemble des Français qui sont attachés aux idées que nous portons, aux idées de la droite nationale, pour lesquels je les invite à voter MNR, c'est la nécessité d'une refondation de la droite nationale. Je crois qu'après les mauvais scores de Jean-Marie Le Pen, il faut tirer les enseignements de ce qui s'est passé.
On ne l'avait pas aidé tellement à faire des bons scores.
Ah, vous rigolez? Je me suis désisté.
Et puis des années, attendez, mais ça fait des années que vous ne l'aidez pas, attendez. Mais c'était vraiment pas venu pour faire de l'opposition ici.
Alors moi, je suis pas venu non plus pour discuter de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Je suis venu pour discuter de ce qui se passe aujourd'hui.
Bon, aujourd'hui, Le Pen, comme les socialistes, il est dans la merde et c'est pas de sa faute à lui. Et c'est pas de la faute aux socialistes non plus, ils sont dans la merde.
Bon, alors si je peux dire un mot.
Je me tais.
Si je peux dire un mot.
Monsieur Maigret,
je ne reviens pas sur ce qui s'est passé il y a 10 ans. Encore que ce qui s'est passé il y a 10 ans, je crois que ceux qui constatent ce qui se passe aujourd'hui peuvent comprendre peut-être un peu mieux ce qui s'est passé il y a 10 ans, avant de la scission. Pour les élections présidentielles, puisque vous avez évoqué les choses, j'ai retiré ma candidature. Je l'ai soutenue.
Je ne vois pas
ce que je pouvais faire de plus. J'aurais pu faire beaucoup plus si Marine Le Pen n'avait pas saboté l'Union patriotique, si j'avais pu prendre la parole dans les meetings, si j'avais pu faire campagne aux côtés du Front National, si on avait pu mobiliser cette Union patriotique, créer une dynamique et faire une campagne qui tienne debout. Non pas une campagne qui soit faite pour banaliser le discours de Le Pen, une campagne qui soit faite pour servir la soupe à Sarkozy, parce qu'au fond, on ne l'a pas combattu, on n'a pas démontré pendant cette campagne tout ce qu'il y avait de fallacieux dans ses propos. Enfin, bref, je ne suis pas là pour parler des erreurs qui ont été commises dans la campagne présidentielle de Le Pen, compte tenu de la ligne qui a été celle de Marine Le Pen, qui était la directrice de campagne. Je vous rappelle quand même que l'essentiel des préoccupations de Marine Le Pen, c'était de recueillir pour Jean-Marie Le Pen des voix d'immigrés. C'est pas le problème numéro un, me semble-t-il, d'un candidat national. Non pas que nous ne pouvons pas avoir des voix d'immigrés. Tout récemment encore, j'ai rencontré sur le marché à Marignane des gens qui votent pour nous, mais parce que ce sont des gens intégrés, assimilés, qui travaillent, qui ont acheté leur baraque et qui supportent pas l'insécurité et les voyous qui viennent semer la pagaille. Mais ça, il n'y a pas besoin d'un discours particulier pour obtenir le vote de ces gens-là. Ils votent spontanément en tant que Français. Voilà. Donc, il fallait tenir bon sur les thèmes qui sont les nôtres et qui sont plus que jamais d'actualité, puisque c'est sur ces thèmes-là que Sarkozy a été élu. Nous sommes aujourd'hui dans une situation totalement paradoxale, puisque nos idées ont progressé. On n'est pas dans la situation du Parti communiste qui est en train de disparaître parce que ses idées ne sont plus d'actualité, qu'elles sont mortes et que la page s'est définitivement tournée. Nous sommes dans la situation d'un mouvement dont les idées sont en train de triompher et dont l'expression politique est en train de s'effriter. Eh bien, il faut réfléchir à ça et il faut réagir. Et la bonne réaction, c'est pas de se claquemurer dans son organisation, chacun de son côté, en écartant les autres. J'ai proposé au Front National, pour l'élection législative, dans la foulée des présidentielles, des candidatures uniques. Ça n'a pas été accepté par le Front National. J'ai unilatéralement, avec mes amis, décidé de soutenir une quinzaine de dirigeants du Front National pour montrer concrètement, de façon unilatérale et spontanée, notre désir d'union. Ça n'a pas été suivi d'un geste en retour. Tant pis, on continue. On a fait des gestes comparables du côté du MPF. Je dois dire que là, il y a eu un peu de réponse, puisqu'il y a quand même 70 circonscriptions où il y aura une quelque sorte candidature unique, 36 circonscriptions où c'est le MNR qui est candidat, il n'y a pas de MPF et réciproquement dans les autres. Bon, ce sont des petits gestes, c'est un début, mais je crois que c'est ça qu'il faut faire. On ne peut pas continuer à dire tout ça c'est de la faute de Sarkozy, c'est de la faute des Français, c'est de la faute d'un tel. Non, il faut maintenant refonder la droite nationale, la rassembler et la moderniser.
Mais j'ai remarqué que vous avez, ou c'est une erreur, mais je crois pas, que certaines de vos listes ou toutes sont présentées sous l'étiquette Union des Patriotes ou Union Patriotique.
Sous l'étiquette Alliance Patriotique.
Alliance Patriotique.
Puisque le Front National s'est refusé à ce que nous utilisions la formule Union des Patriotes qu'il avait lui-même déposée. Voilà. Donc, en effet, on est dans une démarche d'union et de rassemblement. Et je crois que c'est ce vers quoi il faut tendre. Et c'est la raison pour laquelle je dis à ceux qui nous écoutent, votez MNR si vous voulez cette refondation, si vous voulez cette réunification, pour montrer à ceux qui au Front National, et je pense principalement à Marine Le Pen, ne veulent rien de tout cela, considèrent que aucune erreur n'a été commise, considèrent que il faut que le Front National ferme les portes de tous les côtés et continue comme avant.
Pas de tous les côtés, Bruno Bingray. Le Minute révèle ce matin, avec beaucoup d'enthousiasme, que le président du comité de soutien de Marine Le Pen, candidate à Hénin-Beaumont, est un notable socialiste. Donc, la porte est ouverte pour certains notables socialistes, pour Fort Carré de Libération et pour quelques autres, rassurez-vous.
Voilà, bah écoutez, Je crois en effet que c'est révélateur de ce qu'il ne faut pas faire, justement.
C'est-à-dire que ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a l'impression que les valeurs, les principes, les fondamentaux sont complètement oubliés. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, que... J'étais pas du tout contre la visite de Le Pen sur la dalle d'Argenteuil. Je trouvais que c'était plutôt... D'abord, c'est un geste typiquement Le Pen, c'est-à-dire gonflé, spectaculaire, régalien, en quelque sorte. J'ai trouvé que c'était bien. Mais je suis pas du tout d'accord avec des positions comme celles, des déclarations comme celles qu'il a faites à propos des qualifications, la qualification que donnerait ou que ne donnerait pas les origines bigarrées de Sarkozy pour être président de la République. Alors, Le Pen est entouré de gens qui ont des origines mélangées, qui sont des métis de Russes, d'Italiens, d'Espagnols, de Portugais, de tout ce qu'on veut. Et d'un seul coup, ils découvrent qu'il faut être 100% français depuis 14 générations pour avoir le droit d'ouvrir sa gueule. C'est insupportable. Moi, je l'ai pris vraiment comme un crachat en pleine figure. Ou quand on nous explique que l'extrême droite a été un boulet qu'il a traîné pendant des années. Bon, moi, je veux bien. Enfin, ce boulet, j'étais bien content de le trouver quand même de temps en temps à côté de lui pour s'en servir, pour le mettre dans son canon. Alors, tout ça, c'est inspiré, on sait bien par qui. C'est inspiré, effectivement, par Marine Le Pen et par Alliot. Bon, ces gens-là veulent faire de la politique, c'est leur problème, c'est leur droit. Mais enfin, pour autant que je sache, on n'est pas dans une épicerie. C'est pas parce que papa était épicier qu'on est obligé d'être épicière. Elle pouvait ouvrir une autre boutique si elle voulait vraiment faire de la politique.
Un cabinet d'avocat, par exemple.
Mais ça, oui, non, mais en politique, elle pouvait faire autre chose. Faire comme Bayrou, créer son propre parti. Et comme ça, elle aurait pu défendre les idées qu'elle défend.
Je fais bien la différence entre, effectivement, ce petit groupe qui a pris le pouvoir au Front National et Jean-Marie Le Pen. Avec Jean-Marie Le Pen,
évident.
J'ai renoué des contacts qui sont cordiaux, qui sont réguliers. Bon, Jean-Marie Le Pen a fait beaucoup pour notre combat. Et je pense que s'il n'y avait pas ce petit groupe, beaucoup de choses seraient possibles, y compris avec lui. Donc, c'est ça qu'il faut bien voir. Et ce qu'il faut voir également, c'est qu'il y a une majorité de cadres, de sympathisants, d'adhérents, de militants du Front National qui souhaitent cette rénovation, qui est une rénovation qui doit être à la fois, d'ailleurs, un réenracinement, en effet, dans les convictions fondamentales qui sont les nôtres et qui, loin d'être obsolètes, sont au contraire... encore plus d'actualité que par le passé, une refondation pour rendre ses convictions plus efficaces dans le monde moderne qui est le nôtre, enfin dans le monde du 21e siècle, le choc des civilisations, le mondialisme qui lance des défis formidables aux nations et aux civilisations auxquelles nous sommes attachés. Et puis, il faut aussi, de façon un peu plus pragmatique, réfléchir à l'organisation politique la plus pertinente aujourd'hui, qui n'est pas nécessairement celle d'une structure hyper centralisée, hyper autoritaire, aux modes d'action politique qui ne peuvent plus être les mêmes que ceux d'il y a 15 ans, ou 20 ans, ou 30 ans. Et puis aussi, encore une fois, j'y reviens, la nécessité de réunir à nouveau tous ceux qui partagent ces sentiments, d'autant que maintenant, on a franchi, je crois, une étape. Les gens qui nous soutiennent ou qui soutiennent, qui aspirent qui partagent nos idées, ne se contentent plus maintenant de faire un bras d'honneur au système. Ce qu'ils veulent, c'est que les choses changent réellement, et que ces idées qui sont les nôtres soient mises en œuvre. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'une partie d'entre eux ont cru astucieux de voter Sarkozy, pensant que Sarkozy, même s'il applique 20% de nos idées, ça sera toujours mieux que zéro comme en 2002. Mais c'est à nous de relever ce défi maintenant. C'est de s'organiser pour faire comprendre aux gens que s'ils votent pour nous, bah, il y a eu 2002, le deuxième tour, qui n'a pas marché, mais qu'il n'y a pas de fatalité à cela, et que demain... si on s'organise, si on se prépare, nos idées peuvent triompher pour de bon.
Je crois surtout qu'il faut être prêt pour le moment où les gens vont découvrir que c'est pas exact ce qui se passe, c'est pas exactement ce à quoi ils s'y attendaient.
Il va y avoir...
Moi, j'ai été surpris de voir le score, enfin les sondages qui témoignent de l'extraordinaire satisfaction des électeurs du Front National et de la droite nationale, le Front National et MNR, la satisfaction devant les premiers gestes de Sarkozy. Et je comprends pas. Et enfin, il n'y a aucune logique, il n'y a aucune cohérence intellectuelle là-dedans. Comme vous le dites, le nouveau président de la République prend le pouvoir. Il fait ce qu'il veut. Bon, il choisit des gens comme Rachida, comme Kouchner, comme bon, tout ça. Mais... c'est son droit, ça je ne conteste pas. Il a été élu démocratiquement avec une majorité, bon, il le fait, c'est son droit. Mais que nous, que les gens comme nous disent « Ah ben on est bien contents », alors là moi je comprends pas, vraiment je comprends pas.
On est content de voir la gauche à genoux, pisser le sang à quatre pattes par terre.
Il va y avoir en effet, je pense, des déceptions importantes. Non pas que Sarkozy ne va rien faire, je pense qu'il va agir. Il a suffisamment dit qu'il allait le faire, mais on va découvrir progressivement que les actions qu'il entreprend, bah, finalement, ne changent pas grand-chose. Hein. Et déjà, ça a commencé, on a commencé à voir comment ça allait fonctionner pour des choses très concrètes, très terre-à-terre, la défiscalisation des intérêts pour les prêts immobiliers. Et on était parti pour que ça ne concerne que les prêts de ceux qui auraient conclu un contrat après le 6 mai. Bon, ça a tellement hurlé qu'apparemment, ça va quand même être un peu rétroactif. Mais enfin, on voit bien que tout va être rogné pour la défiscalisation des heures supplémentaires. On nous explique déjà que tout n'est pas possible, que ça va coûter très cher, que ça va pas avoir les effets qu'on escompte, que ça va permettre des fraudes, etc. Pour la suppression de l'impôt sur les successions en ligne directe, on s'aperçoit qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ne payent pas, beaucoup de Français qui ne payent pas d'impôts. Comme il n'est pas question de supprimer ces impôts pour ceux qui ont beaucoup d'argent, ont une grosse fortune, on va s'apercevoir que finalement la réforme, ça va consister à changer légèrement la ligne de frontière entre ceux qui payent les impôts et ceux qui ne les payent pas. Bref, tout va se dégonfler progressivement en baudruche. Il dira « j'ai fait », mais il n'y aura rien de changé. Exactement ce qui s'est passé au ministère de l'Intérieur, où il n'a cessé de s'agiter, de faire les lois, de prendre des mesures, de courir dans tous les sens, et au bout du compte... Bah, est-ce qu'il y a moins d'insécurité en France? C'est pas vraiment le sentiment qu'en ont les Français. En tout cas, pour ce qui est des agressions, ça a augmenté. Et ce sont maintenant les policiers, les représentants des forces de l'ordre qui sont agressés.
Oui, mais ils se font accompagner chez eux par des policiers.
Est-ce qu'on peut pas faire un parallèle aussi amusant ou instructif, ou les deux, avec mai 81? Rappelez-vous, François Mitterrand a été élu dans un enthousiasme indescriptible, donc je ne vais pas essayer de décrire, mais il y avait beaucoup d'enthousiasme, il y avait beaucoup de gens qui pensaient, d'ailleurs il y avait des gens qui pensaient que leur fille allait être violée par les tankistes soviétiques, et d'autres, bon moi je me souviens que je vivais une belle histoire d'amour avec une jeune fille des beaux quartiers à l'époque, que j'ai emmenée à la Bastille sous l'orage, et qui m'a dit textuellement « votre joie fait peur à voir ». Et puis, le lendemain de l'élection, quelqu'un au Nouvel Observateur a écrit « On pourrait penser que les Français ont voté pour mettre leurs idées de gauche dans un placard doré ». Et puis, il y a eu le gouvernement Mauroy, et quelques mois après, eh ben, on fermait les mines de fer, on liquidait la sidérurgie, et on avait le gouvernement le plus libéral qui soit. Est-ce que ça va pas être la même chose, là, finalement? Est-ce qu'on n'a pas voté pour mettre nos idées de droite dans un placard doré, en sachant très bien ce qu'il va en être, et que le mondialisme va continuer sous Sarko, comme sous Mitterrand, comme sous Chirac?
C'est bien possible. C'est bien possible.
Mais quelle solution vous voyez pour s'y opposer? Parce que c'est le rôle de l'opposition de s'opposer à ça. Alors comment on peut s'opposer à un mouvement de cette nature?
Déjà, il faut voter massivement pour la droite nationale, pour le MNR au premier tour des législatives. Hein, ça, c'est quelque chose de concret et de simple. Parce que si Sarkozy n'a pas une majorité, je dirais, massive, si finalement c'est moins bien que ce qu'il espérait, déjà c'est un premier signe qui est donné. Bon, ensuite, je pense qu'il faut réorganiser la droite nationale, j'y reviens, parce qu'il n'y a pas d'autre force qui pourra s'opposer à cela. Ce n'est pas les socialistes qui vont s'y opposer, bien évidemment, d'autant qu'ils sont eux-mêmes sous le coup non seulement d'une désorganisation et de mauvais résultats, mais je pense qu'ils sont aussi sous le coup de l'histoire qui passe. J'ai parlé tout à l'heure du communisme qui vivait ses derniers moments historiques. Je pense que après eux, c'est le tour des socialistes.
Qui n'ont pas fait non plus leur aggiornamento.
Qui n'ont pas fait leur aggiornamento, absolument.
Est-ce que vous croyez que... Est-ce que vous sentez qu'il y a un écho de la... aux propositions que vous faites d'une refondation de la droite nationale, du côté des, je dirais, des gens qui sont restés au Front National.
Oui, je pense qu'il y a, d'ailleurs, je crois même que Bruno Gollnisch a utilisé lui aussi le mot de congrès d'Épinay. Je sais que beaucoup d'autres, comme Karl Lang, comme Martinez, comme bien d'autres, sont favorables à cela. Donc c'est une situation un peu paradoxale, hein. Je pense que, et je crois qu'il ne faut pas que Le Pen voit ça comme quelque chose qui est dirigé contre lui. C'est pas ça l'esprit. Il faut simplement, à l'issue de ce cycle, en quelque sorte, préparer la suite.
Apparemment, il y a un mouvement, parce que je vois Bernard Anthony qui s'est éloigné volontairement, et pas autre, il n'a pas du tout été vidé, ni exclu, ni rien du tout. Il a pris ses distances volontairement du bureau politique et pas du parti, puisqu'il a maintenu son adhésion au Front National. Dans un texte récent, appelle à voter pour certains candidats du Front National et pour certains candidats du MNR, en fonction des services rendus. Et puis en fonction des projets exposés. Donc il y a véritablement une espèce de mouvement de fond qui se produit.
Je pense qu'il y a un courant de fond, qu'il y a une lame de fond. Tous ceux qui prennent conscience des réalités devant lesquelles on est confronté et qui veulent assurer l'avenir de notre courant pour les décennies qui viennent, tout cela sont... souhaite cette refondation.
Est-ce que vous pensez que le alors comme ça au pifomètre, est-ce que vous pensez que le score de la droite nationale, toute organisation confondue, aux législatives peut corriger ou amplifier le score des présidentielles?
Ben écoutez, là je dirais que c'est un peu paradoxal, hein, parce que j'ai dit tout à l'heure que le score de la droite nationale sera fort, plus on sera en position contrer les mauvaises orientations du gouvernement Sarkozy, les mauvaises orientations à venir, et faire en sorte qu'il reste fidèle aux engagements qu'il a officiellement pris. Hein. Mais dans le même temps, c'est certain que si le score est bon, tout le monde va dire ça va à peu près, on va continuer comme ça. Bon, si le score n'est pas bon, c'est certain que ça va accélérer la prise de conscience et la nécessité de cette refondation.
Là, on a une lettre, enfin un message d'un auditeur qui dit « J'accuse M. Maigret avec ses candidats d'avoir conclu des accords avec l'UMP pour diluer les voix des candidats du Front National. Il représente à mes yeux et en toute objectivité Monsieur, alors c'est pas très clair, Monsieur De Villiers lié pour les législatives tout en le regrettant. Enfin, je vois bien que c'est probablement mal transcrit ce que dit cet auditeur, mais je pense que ce qu'il dit, c'est que vous et Villiers êtes en quelque sorte, on me passera l'expression, à coquiner avec Sarkozy pour amplifier la baisse des scores du Front National. Avez eu des contacts avec les...
Non, mais moi, je n'ai eu absolument aucun contact avec l'UMP, bien évidemment. Et encore une fois, on ne peut pas me faire ce procès-là. J'étais d'accord pour des candidatures uniques avec le Front National. On était prêt à se retirer face au Front National dans 517 circonscriptions. C'est pas rien.
Contentant donc de 60.
En nous contentant de 60 circonscriptions qui correspond au rapport de force électorale qu'on avait constaté dans les élections précédentes. Donc, je vois pas ce que je pouvais faire de plus.
Si, vous pouviez vous suicider, monsieur.
Oui, bien sûr, évidemment. mais ça, c'est pas dans ma nature. Hein. Moi, je suis un combattant, et par conséquent, il n'y a aucune raison que...
Il y a aucun, mais ce que vous dites...
J'aille à l'encontre de ce qui est souhaitable.
Vous êtes un combattant. Je me demande si une des clés de toute cette affaire, c'est pas aussi... une certaine raideur à la toile de Jean-Marie Le Pen et de vous. C'est-à-dire que Le Pen a l'habitude, quand même, il faut bien dire les choses, de trouver en face de lui des gens qui calent. C'est vrai. Bon, il est assez impressionnant, aussi bien intellectuellement que physiquement, et c'est assez difficile de lui tenir tête. Or, vous êtes un des rares qui l'ait fait. Il y a vous, il y a Anthony, il y a des gens comme ça qui disent non, moi je cale pas, voilà, je. Et ça finit par créer une espèce de. Comment dirais-je de j'ai le mot concrete qui vient de béton, qui rend les choses absolument irréconciliables après. On peut pas. Moi, j'ai eu de la peine à croire à une réconciliation avec Le Pen. C'était.
Écoutez, elle est pourtant réelle, hein, malgré ses primaires en quelque sorte aux élections.
Vous parlez des gens qui l'entourent, non.
Non, je dis malgré les primaires.
On est méchant.
Oui, vous avez l'esprit mal tourné là quand même. Non, je ne disais pas ça, mais malgré ces espèces donc d'élections primaires qui ont lieu au sein de la droite nationale et que je regrette, nous ne sommes pas fâchés. La réconciliation elle est maintenue et quand je parle de ça à Le Pen, il me dit on a un accord de désistement réciproque pour le deuxième tour. Bon, c'est très théorique, évidemment, dans les circonstances, mais dans son esprit, il n'y a pas de rupture, on n'est pas fâché. Je pense que, au contraire, moi j'ai toujours essayé de tenir compte de ce que vous disiez. Mais effectivement, bon, je suis un homme libre.
Est-ce que vous dînez ensemble de temps à autre, en copain?
Je vous demande notre connuture mondaine. Mais c'est quand même une question sérieuse.
Déjeuner. Ah, voilà. C'est arrivé. Ouais. Récemment.
Bien, mais voilà. Écoutez, on va attendre le... Oui, il y a des questions?
Enfin, c'est pas des questions, enfin si, c'est
des réflexions, des injures, des...
D'abord, les questions que se posent les gens dans leur petite tête. Dans le 17e, il y a un candidat Front FN et un candidat MNR, je suis très ennuyé, que dois-je faire?
Ah ben ça, ouais. Alors là...
Si vous me posez la question, vous répondez tout de suite, votez MNR.
À Bordeaux, il n'y a pas de candidature MNR. Alors, pour qui voter, MPF ou FN?
Ah ben...
Ça, c'est un peu à la gueule du client.
Oui, c'est un peu à la tête du client. Oui.
Mais c'est pas à Bordeaux qu'il y a la candidate FN est une cousine de Madame Royal qui est tout à fait exemplaire, qui a 7 enfants, qui est très catholique, très vertueuse.
Ah, peut-être, oui. Peut-être bien, oui.
Ça doit être difficile de lui résister.
C'est le retour de la famille Royal.
Là, il n'y a pas de discussion. Pour une fois qu'on peut voter Royal, FN, plaisir.
Voter Royal, voter FN.
J'étais avec le Front, je suis avec le MNR depuis que Marine a torpillé le paquebot. Les nationaux doivent passer avant les racailles. Voilà, ça c'est un commentaire.
Marine qui torpille le paquebot, c'est
très joli ça. Et alors là, il y a des auditeurs qui rêvent encore, surtout les auditrices. Hein. Ce qui aurait été merveilleux, c'est que Maigret, Gollnisch, Villiers
se marient.
Soient mis tous les trois ensemble. Et bien ça ferait la pige à Marine. Bon. Monsieur Bruno Maigret, ne pourriez-vous pas avoir de bons rapports avec Monsieur de Villiers? Vous êtes le seul homme à pouvoir faire quelque chose avec lui.
Mais c'est le cas, hein, j'ai de bons rapports avec lui. Ça, c'est un.
Ben oui, mais.
Est-ce que vous déjeunez avec lui?
Ça ne se concrétise pas.
C'est vrai qu'en France, les choses se passent toujours autour d'un repas. Disons oui.
Alors,
mais c'est vrai ce qu'a dit l'un des auditeurs. Moi, j'ai été quand même frappé. C'est une question d'image, mais ça compte en politique, surtout dans les campagnes électorales. On a vu M. Besson, socialiste, qui avait commis d'ailleurs un livre contre Sarkozy, aller parler au meeting de Sarkozy, à plusieurs meetings de Sarkozy, pour le soutenir. Comment se fait-il que à aucun des meetings de Jean-Marie Le Pen, je n'ai été invité à parler pour le soutenir? Voilà. pourquoi
c'est que vous n'êtes pas socialiste. Il faut être socialiste, il faut être un notable d'Hénin-Beaumont et vous serez président du comité de soutien de Marine Le Pen.
Ça serait le gag, ça.
Voilà.
Et puis alors, Serge,
je vais y réfléchir.
Oui, ça vaut la peine.
Une auditrice à qui vous avez fait vraiment de la peine. Émission lamentable. Serge de Becquetch met de l'huile sur le feu. Maigret a trahi.
Ah.
Un point, c'est tout.
Ah.
On ne revient pas dessus. Jean-Marie Le Pen est revenu, mais pas l'auditrice. Pourquoi diviser avant les législatives?
Ben oui, bon. Je suis bien d'accord. Pourquoi diviser avant les législatives alors qu'il aurait fallu faire l'union et que nous étions prêts à cette union? Donc, pour faire l'union, il faut être au moins deux.
Je voudrais répondre à l'expression « émission lamentable ». Vous savez, moi, je veux bien faire une émission en disant « c'est vraiment formidable, tout va très très bien, le Front National a fait un score brillantissime, le MNR est en pointe dans les intentions de vote.
Lamentable.
Nous allons gagner, nous avons déjà gagné, d'ailleurs cette élection est une pure formalité. Bon, alors là, la semaine suivante, vous aurez le droit de me dire que j'ai fait une émission lamentable. Mais une émission de radio, c'est quand même pour fait à l'origine pour dire des choses qui sont non seulement vraies, mais vraisemblables.
Il faut mettre de l'huile sur le front.
Bruno, un dernier mot, puisque vous devez nous quitter pour aller...
Oui, je dois
faire campagne.
Pour une autre émission, je voulais vous remercier et je voudrais dire à tous ceux qui s'interrogent et qui nous écoutent, tous ceux effectivement qui souhaiteraient que les choses soient plus simples, plus claires, de notre côté, de mon côté, ou de la même manière, on va faire tout pour que ça se produise, pour que la droite nationale se réunifie. Pour qu'elle se réenracine dans ses convictions, pour qu'elle prépare l'avenir et qu'elle constitue cette grande force politique que notre pays attend pour le jour où Sarkozy décevra. Et je pense qu'en 2012, la grande force que nous devons constituer, elle devra être prête.
Merci Bruno Maigret. À bientôt.
Merci à vous.
Voilà. Alors, quant à moi, je voudrais ajouter un mot. C'est que je pense que il y a un effet positif dans le score du Front National à la présidentielle. C'est que ce score, il montre que la ligne marine n'est pas acceptée par les militants et par les électeurs. Alors, c'est déjà une chose à peu près certaine. Donc, comme de toute façon... L'œuvre que Jean-Marie Le Pen a accomplie depuis 72 peut pas disparaître comme ça, c'est-à-dire cette œuvre de constitution d'un front. Je rappelle ce que c'est qu'un front quand même. Un front, c'est pas un parti. Un front, c'est le rassemblement de diverses personnes appartenant à des tendances non pas antagonistes mais différentes et qui s'unissent dans un but commun. Bon, c'est pour ça qu'au Front National, il y a des royalistes, il y a des souverainistes, il y a des républicains,
des païens et
des
catholiques.
Païens, des catholiques, des protestants, des orthodoxes, des musulmans, des juifs,
des retraités,
des athées, non, des il n'y a femmes. Pas d'athées, parce qu'il n'y a pas d'idiots au Front National, donc il ne peut pas y avoir d'athées, c'est pas vrai.
Insultez, coupez votre bras gauche, c'est devant tout le monde.
Bon, vous êtes athée quand même.
Ah non, c'est vrai, vous me l'interdisez, vous
êtes tenté par personne.
Il me présente comme agnostique parce que c'est interdit de travailler chez Serge Le Maire.
Bien, donc de toute façon, ce travail-là, il ne peut pas tomber ni en quenouille, ni en capilotade. Donc, il y a un moment où ça se reprendra. Et ça reprendra vie. Et ça reprendra vie avec les gens qui sont disposés à le faire. Or, moi, ce que j'aime bien chez Maigret, c'est qu'il renie rien, mais qu'il est, dès le début, il s'est porté volontaire pour suivre la proposition, pour accepter la proposition qui avait été faite d'une union patriotique. Moi, j'étais contre. Je savais que ça marcherait pas dès le départ. J'avais flairé le piège. Et j'ai fait un édito à l'époque dans le Libre Journal qui m'a valu d'ailleurs la dose habituelle de fiel et de couleuvre. Mais enfin, ça nourrit aussi. Je savais que ça pourrait pas marcher. C'était évident. Mais lui, il y a cru. Il s'est engagé. Il a tenu et il continue à tenir. Donc c'est des gens comme ça qui redresseront le mouvement. C'est des gens comme lui, comme l'autre Bruno, Gollnisch, comme Lang, comme les gens de qualité, les gens qui ont toujours été là, qui ont toujours été parfaitement loyaux et à leurs idées à leurs dirigeants, à leurs chefs. Et puis il faut attendre, c'est tout. Et l'essentiel, c'est que la démonstration est faite que la ligne Marine Alliot, c'est pas une bonne ligne. Elle marche pas. Elle ramène pas de poissons. Alors autant la casser et la foutre à l'eau. La ligne.
Alliot-Marine, ça marche pas.
Alliot-Marine, ça ne marche pas. Voilà. Et voilà ce que j'avais à dire à titre strictement personnel. Ça n'engage que moi.
Et puis un auditeur ajoute, c'est l'année prochaine qu'on pourra juger Sarkozy sur des résultats.
Voilà.
Alors, c'est pas une banalité, ça.
C'est
le contraire.
Et oui, c'est vrai d'ailleurs que c'est un auditeur qui dit mais la propagande sarkozyste se répand partout, même à Radio Courtoisie.
C'est l'état de grâce.
Oui, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas de la propagande. Enfin, c'est de la propagande si on veut, mais ce qu'on vient de faire aussi, c'est de la propagande. Donc, si chaque fois qu'on parle d'un homme politique, d'un combat politique et tout, on est accusé de servir de la propagande, on peut plus faire ce métier-là. Il y a des gens dans cette radio qui croient sincèrement que Sarkozy est une chance pour la droite française. Bon, moi je pense le contraire, je le dis. Eux pensent ça, ils le disent aussi. Rendez-vous à l'arrivée, c'est tout ce qu'on peut dire. On va pas. Là, ça fait quoi? Ça fait même pas un mois qu'il est au pouvoir. Ce que je le relève, c'est les choses qui me plaisent pas. Mais s'il me convainc qu'il a raison, ben, je me laisserai convaincre. Je veux pas en mourir, vous savez. Mais je crois pas. Je crois que, en tout cas, on a le droit de s'exprimer.
Croyez, vous laisserez convaincre?
Ah oui.
Quand Monsieur Maigret a pas dit, il a dit, on verra quand Sarkozy décevra. Il n'a pas dit au cas où il vous décevrait.
Non,
on a l'impression que les jeux sont faits déjà.
Excusez-moi, j'informe les auditeurs que c'est la voix mélodieuse de Rémo Forlani.
Oui, voix enfin, rocailleuse.
Moi je vous assure que si...
Je ne suis pas venu ici encore une fois pour parler politique, comme je vous écoute beaucoup, que tout ça m'intéresse, me passionne et tout, je mets mon grain de sel.
Ben, je suis très content que vous fassiez pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous avez quand même un peu au chapitre, ne serait-ce que par expérience professionnelle, et aussi parce que ce que je regrette un peu dans cette émission, je parle dans mon émission, dans notre émission, c'est que chacun vient à parler de son petit sujet et évite de sortir de son
domaine. Le reproche qu'on pourrait vous faire, parce que celui-là, allez, on y va, on s'étale.
Allez-y.
Bon, je vous écoute beaucoup, et je trouve que vous avez du talent, que vous dites des tas de choses qui m'intéressent. Bon, si j'étais radicalement contre, je vous écouterais pas. Hein, j'écouterais énergie, ou j'écouterais du rap, ou de la techno. Si je vous écoute, c'est que ça m'intéresse. Bon, ce que je pourrais reprocher, c'est que vous faites un peu ce que vous reprochez à TF1, à Antenne 2, à RTL ou n'importe quoi, c'est que vous invitez pas beaucoup votre opposition.
Ben oui, c'est un peu difficile.
Non, mais
vous avez raison.
Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, absolument. Mais la raison, il y a plusieurs raisons.
Vous me direz que les autres ne vous invitent pas.
C'est pas ça. La première raison, c'est qu'ils veulent pas venir. C'est ça le problème. Moi, j'ai invité plusieurs fois des gens qui disent dans l'émission de Becquet, genre, pas question. Ça, ils veulent pas. Bon, alors, on peut pas.
Mais on m'a dit, là, pas plus tard que ces jours-ci, j'ai dit, tiens, je vais aller à Courtoisie. On m'a dit, quoi, tu vas aller à Courtoisie? Ah, voilà. C'est facho. Mais je dis, oui, c'est facho.
Mon papa était facho. Vous n'avez pas dit chez Becquet, en plus.
Comment?
Vous avez dit à Courtoisie, vous n'avez pas dit chez Becquet?
Si, j'ai dit chez Becquet. Et on m'a dit, textuellement, mais je ne vous dirai pas qui, je ne suis pas là pour
capter.
On m'a dit, mais tu c'est facho. J'ai dit, oui, mon père était pour Mussolini. Je n'ai rien contre les fachos, a priori.
Les choses sont claires.
Mais c'est vrai. T'as un papa italien qui était moussolinien. Bon. Je vais vous dire truc. Je suis une des rares personnes vivant en France à cette heure-ci qui a été, étant gosse, Balil. Vous savez ce que c'était qu'à Balil?
Bien sûr.
Mon père m'avait inscrit. J'étais Balil.
Il y avait Hugo Pratt, vous avez bien
connu. Oui, je l'ai connu. Un jour, on a discuté, on a évoqué nos souvenirs du temps des Balil.
Hugo Pratt, c'était
Je ferme ma parenthèse.
L'auteur de bande dessinée qui a fait Corto Maltese. Ben, si un jour vous faites l'honneur de venir à la maison, vous verrez comment est décoré mon bureau. Il y a quand même un joli portrait, là, qui vous plairait bien.
De vous, par...
Non, du regretté Duce.
Du doute, oui.
Voilà. Donc, on a les admirations qu'on veut. Après, du moment que j'ai pas de portrait d'Hitler.
On a beaucoup d'auditeurs qui doivent s'étonner en ce moment, et les milliers d'auditeurs de gauche que nous avons, parce qu'on a peu d'invités, mais beaucoup d'auditeurs de gauche, parce que la gauche leur raconte que l'immigration italienne en France était politique et que c'était des victimes ou des opposants du fascisme. Oui, la réalité, c'est que c'était.
Chaque coup que je raconte Cavana, on s'engueule parce que
voilà,
son père était communiste italien. Mon père n'était pas du tout communiste, était très italien, mais pas du tout communiste.
Notamment Cavana raconte ça dans ses excellents livres, très intéressants. La réalité, c'est que c'était une immigration économique et que l'État fasciste entretenait des consuls et toutes sortes de délégués qui organisaient, comme dans votre cas, des sections de balia dans toutes les villes.
Oui, oui, à Paris, il y en avait.
Et des cours du soir et toutes sortes des séances de cinéma, etc. Avec
le non, je vais vous dire la vérité aussi, c'est que ça va très vite emmerder. Je dis à mon père, j'arrête, quoi.
Oui, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est...
Vous savez, il nous faisait chanter de Giovinez et tout ça, c'est marcher au pas et tout, c'était pas très bon.
Dans 5 minutes, mais on fatigue. Moi, j'ai fait 10 ans d'école militaire, je peux vous dire que je suis pas.
Bon, fermez ma parenthèse, allez.
Si, je voudrais juste faire une petite remarque à
Jean-Pierre Rondeau.
C'est que quand De Gaulle est venu au pouvoir en 58, il a été porté par les pieds noirs, et parmi les pieds noirs, j'en suis, hein, et à moitié espagnol. Parmi les pieds noirs, il y en a eu très rares, mais il y en a eu quelques-uns qui, vu l'expérience qu'ils avaient de De Gaulle, vu ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient fait, ont dit à d'autres, vous commettez une erreur et vous regretterez ce que... Aujourd'hui, quand on porte une position... c'est mon cas, en tout cas, comme moi, je pense que ça va être quelque chose de mauvais, l'élection de M. Sarkozy, c'est parce que je regarde ce qu'il a fait avant. M. Sarkozy ne vient pas de sortir. Si c'était un type qui venait d'apparaître, je dirais oui, on peut attendre. Mais là, on constate, et les premières mesures, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais on oublie...
Il n'a pas fait grand-chose encore.
Non, mais par exemple, on voit très bien que hier est sorti un sondage, comme par hasard, qui dit que 57% des Français aujourd'hui, finalement, pensent que le service minimum n'est pas obligatoire. On voit son ministre, là je parle finance, hein, son ministre qui dit finalement la résorption des déficits publics était quand même la pierre angulaire du programme, et même celle de Madame Royal, qui dit eh ben finalement on pourrait se donner un an avant de réduire les déficits publics, etc. Bon voilà, donc
non mais c'est on pas, verra
c'est
si
primaire,
quand s'il se casse la gueule, on verra, mais je veux dire, je l'ai pas aimé quand Bruno Maigret a dit on va voir quand Sarkozy va foirer. Attendez, peut-être qu'il foirera pas. Peut-être qu'il va être, je sais pas, l'esprit divin, son ange gardien, va dire maintenant que t'es là, il y a que toi qui peux faire quelque chose.
C'est mon excellent camarade Maurras qui disait le désespoir en politique est une sottise absolue.
Ben oui. Voilà.
Bien, on peut peut-être, on va naviguer un peu ce soir. Combien il reste?
Il reste 8 minutes avant la coupure.
Est-ce qu'il vous reste? Est-ce que vous avez des messages autres que vous en avez plein, mais vous voulez pas les lire.
Il y en a encore un qui dit je vous écoute, je me présente à Libourne, MNR, là où Royal se présente. Alors s'il vous plaît, ne demandez pas de voter pour elle.
Bon. Oui, il y a quand même une question qui revient dans plusieurs messages. Je ne comprends pas que vous ne vouliez pas en parler. C'est la position du Vatican relativement à l'entrée de la Turquie dans l'Europe.
C'est un sujet différent, je me l'étais gardé sous le coude.
Ah bon?
C'est ça, c'est ce que...
Alors, ce qui est intéressant, c'est l'argument. L'argument, c'est que la Turquie est un pays laïque. Il faut que il n'y a pas de raison de l'empêcher d'entrer dans l'Europe. Voilà. Mais de quoi je me mêle? Benoît.
C'est pas lui, mais enfin, il a quand même donné probablement sa bénédiction au cardinal qui a sorti cette année.
Oui, ça, il est probable que le cardinal, comment il s'appelle,
Tarsis. Attends, il arrive en courant. Le secrétaire d'État du Saint-Siège, merci. Je sais pas comment il s'appelle.
Ah, secrétaire d'État, quand même.
C'est le premier ministre. Tarsilio Bertone.
Tarsilio Bertone.
Le secrétaire d'État, quand
même. Oui. Alors il dit donc, en gros, comme la Turquie est laïque, elle doit pouvoir entrer dans l'Europe. Et quand vous dites que Benoît n'était pas au courant, je pense que Tarsilio Bertone ne serait pas permis de dire comme ça, tiens, je vais faire une surprise au pape, je vais dire que l'Église est pour, et comme ça, non, je crois
pas
que
c'est sûr qu'il n'est pas un peu débordé, le pape, là.
Non, je crois pas. C'est pas un petit Rital qui va déborder un Allemand, là, je vous dis.
Ah oui, d'accord.
Avec tout le respect que je dois à Raymond Farladé, il y a quand même des exemples précédents dans l'histoire qui montrent que quand on réunit ces
deux... Mais je crois qu'il est costaud, ce pape-là, ouais.
Oui,
il est bien, oui. Mais enfin, là... Alors, ce que je comprends pas très très bien, c'est que... La position de l'Église, enfin la position du Vatican dans cette histoire, où le Vatican ne s'occupe pas de l'Europe. D'accord ? Et alors il peut dire ça, ou qu'il dise autre chose, ça n'a aucune importance. Ou il s'en occupe, et c'est quand même pas la première priorité. C'est pas parce que la Turquie est un pays laïque, ce qui est d'ailleurs faux. Il faut vraiment avoir jamais foutu les pieds en Turquie pour croire que c'est un pays laïque. Il faut quand même savoir que en Turquie, au début du siècle, il y avait 2 millions de chrétiens, et qu'il en reste à peine 100 000 aujourd'hui.
Et qui sont haïs.
Et qui sont haïs, persécutés, battus, etc. Donc, c'est une laïcité.
En France aussi, de moins en moins, on les bat pas.
C'est vrai, on n'a pas besoin de les
battre. Ils n'ont pas besoin d'être battus pour foutre le camp. Hein.
Si j'ai bien compris, c'est le Vatican qui veille sur la laïcité de l'Europe maintenant.
Voilà, c'est ça. Mais alors, il y a donc l'autre problème, c'est que j'ai pas entendu dire que le pape ait réclamé l'exclusion de l'Europe des pays avorteurs, par exemple. C'est quand même plus important, ça, de dire que...
Il est allé prêcher la chasteté au Brésil, il faut qu'il se repose un peu maintenant.
C'est vrai que c'est dans la série
c'est des... vraiment pour là que je vais aller pour ce genre d'exercice.
Dans la série des boulots difficiles, celui-là est quand même pas
mal. C'est insurmontable.
Non, mais enfin, ouais, c'est désolant parce qu'on a vraiment à chaque fois l'impression que ces bons curés s'occupent de choses qui ne les concernent pas le moins
pas
du
tout,
monde.
Mais vraiment pas du tout.
L'argument, en tout cas, il aurait pu dire au nom de la fraternité humaine, au nom de, je sais pas, n'importe quoi, au nom du fait que la Turquie, par exemple, en tout cas une partie de la Turquie, est un des berceaux du christianisme.
Voilà, oui, bien sûr. Hein,
c'est quand même... ça, c'est une vérité historique.
Oui, mais c'est un
historique.
Argumentaire qui tient la route, tandis que là, ça ne veut rien dire.
Mais là, au nom de la laïcité. C'est un peu comme si le directeur des boucheries Bernard disait...
Au nom des végétariens,
il faut les laisser entrer dans l'Europe. Bon, enfin bref, c'est pathétique, quoi. C'est vraiment cette manie de s'occuper, de parler pour faire du vent. Et... Alors, c'est dommage, parce que je pensais que pour la Pentecôte, moi, j'attendais beaucoup de Benoît. Je pensais qu'il allait enfin promulguer le nouveau motu proprio, autorisant tous les prêtres de la planète à célébrer, selon le rite traditionnel, que leurs évêques le veuillent ou pas. Et ça, il ne veut pas le faire. Alors, j'ai posé la question à un ami vaticanologue distingué, même extrêmement distingué, presque aristocratique, qui m'a dit, mais c'est parce que... Alors, c'est formidable, ça m'a fait penser à une vieille histoire. Il m'a dit, c'est parce qu'il attend que Lustiger soit mort.
Pour pas le contrarier ?
Ouais. Alors, vous savez, c'est la vieille histoire des deux vieux qui divorcent à 90 ans et le journaliste leur dit, mais pourquoi vous divorcez à 90 ans ? Ils répondent, parce qu'on attendait que les enfants soient morts.
Serge, il vous reste 3 minutes. Je peux vous parler de Rachida Dati.
Ah oui ?
Parce que, voilà, seriez-vous d'accord, nous demande un auditeur, pour donner un droit de réponse à Rachida Dati dans leur libre journal.
Mais absolument,
et puis, une auditrice là, nous indique que Faits et Documents indiquent la formation de Rachida Dati qui est tout à fait supérieure. Supérieur à ce que vous dites. Bon. Une magistrate.
J'ai dit qu'elle avait le certif.
Taisez-vous, une magistrate qui reconnaît la valeur de cette ministre. Je trouve que Serge de Beketch a été un peu violent à son sujet. Bon.
Bon, voilà. Si ceux qui sont contents d'avoir Rachida Dati, garde des Sceaux, levez le doigt.
Bon, on ne sait pas. On ne la connaît pas encore. Elle va peut-être être très bien.
On peut subodorer les
choses. Elle a un joli sourire. Sarkozy en a l'air personnellement très satisfait.
Il s'agit de savoir si on parle
un peu moins
de la distribution d'un film sur la politique où le rôle de le garde des Sceaux serait confié à une jolie jeune femme. Alors là, j'y vois aucun inconvénient. Mais c'est vrai qu'elle est plutôt plaisante à regarder. Mais j'ai peine à croire que des magistrats qui ont... D'accord, elle n'est pas bête non plus. Je ne dis pas qu'elle est bête, je ne dis pas qu'elle est laide. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est que garde des Sceaux, c'est une des fonctions les plus importantes, les plus honorables, les plus honorifiques, pardon, dans le gouvernement. C'est même mieux que le Premier ministre.
Ah oui, non, parce qu'il est dépositaire de tout, le
garde des Sceaux. Et ministre des Affaires étrangères, qui, dans la grande tradition des serviteurs de l'État en France, sont les deux postes régaliens, pratiquement. Ouais. Bon. Or, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Kouchner, qui est un pantin, et Madame Rachida... Non, vous n'êtes pas d'accord, Raymond, une fois de plus.
Ça me paraît beaucoup.
Ça vous paraît beaucoup?
Oui, oui.
Dans une marionnette, alors.
Non, ça paraît beaucoup. Le ministère pour Rachida, c'est un gros ministère.
Voilà. Bon, mais je suis tout prêt à m'incliner. C'est d'abord, si Mme Rachida Dati veut m'apporter la contradiction ici, bien sûr.
Dans le Libre Journal.
Bah oui, le Libre Journal, c'est ici.
Ah oui, non, je pensais
ou dans le journal. Mais oui, si elle veut publier un article dans le Libre Journal, je veux bien aussi.
Ça, moi, ça va faire exploser les vents.
Bah, je pense bien, hein. Voilà, bon, ben, ce qui était à dire est dit, et maintenant nous allons...
Dites-donc, alors, j'ai le temps de vous dire que dans le Figaro, il y a 3 ans, le cardinal Ratzinger a expliqué très clairement que la Turquie ne devait pas entrer dans l'Europe. Ah, bah oui. Calmez vos débordements de vocabulaire à l'égard du Saint-Père.
Mais vous mélangez tout, j'ai pas dit que le Saint-Père... attendait que Lucigier soit mort pour décider de la Turquie. J'ai dit pour donner le motu proprio pour la messe traditionnaliste. Il faut écouter avec plus d'attention. Allez au coin, mettez-vous au coin les mains sur la tête. Voilà.
Bonne nuit à tous. Tout à l'heure, à 6h, vous pourrez suivre la rediffusion du livre du jour de Lidounelli d'hier matin. Mais tout de suite, voici la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Beketch d'hier soir. Vous écoutez Radio Courtoisie. Bonne nuit. Il est 3h30.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95,6 MHz, à Caen, pardon, sur 100,6, à Chartres, sur 104,5, à Cherbourg, sur 87,8, au Havre, sur 101,1, au Mans, sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord, sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier, sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 30 mai 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 31 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.net.
Allô, allô, Cécilia. Je ne vous entends pas. Ben, c'est vrai que je n'ai pas mis mon casque. Alors, je ne risque pas de vous entendre. Ben, quel drame. Allô.
Oui.
Bonsoir, Cécilia. Comment allez-vous?
Oh, ben, pas trop mal.
Ben, je m'en félicite, voyez-vous.
Le soleil vient de revenir, mais je suis désolée de ne pas être parmi vous.
Ben oui, nous vous attendions, mais vous êtes...
Alors, les Cocopelli nous ont joué un petit tour en ne recevant pas mon courriel.
Voilà. Les Cocopelli, alors, on les recevra...
à l'automne, je pense à la rentrée.
Sans doute à la rentrée, parce que ce sont des gens très intéressants
oui,
qui...
Oui, je peux me parler d'ailleurs un petit peu d'eux, parce que leur... ben, je peux le faire tout de suite, d'ailleurs, leur... la nouvelle édition de leur catalogue, Les semences de Cocopelli, paraît ces jours-ci.
Alors, il faut expliquer en deux mots ce que c'est quand même.
Alors, c'est une association de semenciers, mais de semenciers de tradition. Ils produisent leurs semences comme un vrai jardinier familial. Ils disent dans leur préface de l'exemplaire que j'ai sous les yeux, là, qui date de 2-3 ans, « Nous sommes des guérilleros de la semence, mais nous sommes aussi des botanistes. » Voilà, et c'est pourquoi ils classent toutes les plantes qui figurent qui sont souvent des plantes alimentaires d'ailleurs, dans ce gros catalogue, mais qui est aussi une œuvre d'art, par le classement habituel par famille. Et puis les fleurs, ils les classent par pays d'origine. Alors c'est un volume d'un poids énorme et magnifiquement illustré, qui vaut toujours 48 euros. Comment s'appelle-t-il? Didier Meunier m'a dit ça hier soir. C'est toujours le même prix, 48 euros plus 9 euros de port. Alors, on le commande à l'association Oasis, 131 Impasse des Palmiers, 30-100 à l'Est, 30-100. Et ils ont aussi un site, cocopelli.asso.fr.
Cocopelli s'écrit
K-O-P-E-2-L-I. C'est le magicien mexicain qui jette des semences. Là, ils viendront nous raconter la légende qui a donné leur nom à leur association. Et ils s'occupent aussi d'aide au tiers-monde par la création de jardins en Inde en particulier. Mes invités, là, n'est pas là parce qu'ils partent pour l'Inde. Voilà, alors j'ai...
L'Indre-et-Loire, bien entendu.
L'Inde ?
L'Indre-et-Loire.
L'Indre-et-Loire.
Oui. C'est pas grave.
Oui, d'accord. Non, c'est un petit peu plus lointain. Alors là, je voulais parler d'une manifestation dont tout le monde a entendu parler parce qu'il y a une publicité énorme autour, mais je pense qu'elle vaut quand même la peine qu'on en reparle. C'est le rendez-vous au jardin. C'est le ministère de la Culture qui organise ça, mais quand ils font quelque chose de bien avec nos sous, on peut en parler, non?
Ah bon, bien sûr.
Après tout, c'est avec nos sous qu'ils le font, non?
Nous ne sommes pas des censeurs. Nous...
Alors, 1700 jardins publics ou privés sont ouverts les vendredis, samedis, dimanches prochains, 1er, 2, 3 juin, sur le thème de l'eau. Alors, un petit peu partout en France, en Outre-mer, et même dans quelques pays voisins comme l'Espagne, la Suisse ou l'Allemagne, des propriétés privées seront ouvertes, alors elles ne sont ouvertes qu'à cette occasion, et certains parcs et jardins seront ouverts au crépuscule, comme c'est en général l'heure à laquelle on nous met à la porte, je trouve que ça peut être intéressant. Il y aura toutes sortes de choses, des animations pédagogiques, des concerts, des jeux d'eau et j'en passe. Les propriétés privées les visites dans les propriétés privées sont souvent guidées par les propriétaires des domaines ou des jardiniers, des paysagistes, des historiens. Les tarifs sont, paraît-il, exceptionnellement bas ou même gratuits selon les cas. Comme je ne peux pas énumérer 1700 jardins publics ou privés qui participent à l'opération, je conseille de se renseigner dans les offices de tourisme et dans la presse locale, où que l'on soit, parce que je trouve que... Bon, moi, j'ai reçu un dossier de 130 pages par courriel, j'aime mieux vous dire que je ne l'ai pas lu en entier. Mais je sais que c'est très bon. Et alors, il y a une façon de s'y associer autre. Par exemple, je vais en citer un seul, c'est un concert de musique traditionnelle japonaise.
Je crains le pire.
On peut aimer ça, non?
Oh, ça, j'y vois aucun inconvénient, mais...
Qui aura lieu à la Roseraie du Val-de-Marne, dimanche à 17h. Et les trois dimanches suivants, il y aura un concert, tenez-vous bien, de musique traditionnelle du Vietnam, un concert de musique traditionnelle de Chine et un concert de musique traditionnelle de Mongolie. Mais je crois que dans d'autres...
J'y crois pas. Dans quel jardin ça se passe, ça?
La Roseraie du Val-de-Marne. Attendez, je vais vous dire où c'est. Et ben tiens, non, mais je ne l'ai pas noté. Ah ben c'est malin.
La Roseraie du Val-de-Marne, ça va pouvoir
se trouver. C'est 94, mais...
Il n'y a pas de musique traditionnelle du Val-de-Marne, non?
Non. Non, mais
c'est
je pense
dommage. Que dans d'autres... Peut-être parcs... qu'ils sont partis en Mongolie pour donner un concert.
Je vous rassure, je pense que dans beaucoup de parcs, on aura autre chose d'un peu plus classique.
Oui.
Et alors, je vais sacrifier une petite tradition avec un tout petit peu d'avance. Vous savez que chaque année, au mois de juin, je parle de roses. Et comme cette année, eh bien, elles sont pratiquement défleuries dans presque tous nos jardins, ici en Poitou, je vais présenter deux livres qui parlent de roses. Et puis, je vous laisserai en paix avec vos invités. Voilà, alors, le premier s'intitule « Les roses du bon jardinier ». Il est constitué de fiches, il y en a plus de 180, de conseils qui sont rédigés par Jérôme Gouthier, dont on a souvent parlé dans cette chronique. Alors, comment obtenir de belles roses, les soins au fil des saisons, les plus belles roses classées par couleur. Ça, c'est très intéressant pour les jardiniers, parce que quelquefois, on associe des couleurs qui vont pas toujours très bien ensemble, ou alors on peut choisir des contrastes tout à fait réussis, et c'est bon de savoir quelles couleurs vont fleurir ces dames que l'on plante dans son jardin, tout en apprenant à les soigner. Et toutes sortes de renseignements utiles au fil des saisons. Il est publié par la Maison Rustique Flammarion et il coûte 19,90 €. Il est cartonné, il est évidemment, alors je ne cesse de le répéter, c'est un petit peu monotone, très bien illustré, de très belles photos. Et puis beaucoup de schémas, surtout pour ce qui concerne la taille. Vous savez que tous les jardiniers ne sont pas d'accord sur la taille. Par exemple, Alain Baraton ne taille pas les rosiers, lui. Il les coupe comme ça.
Il enlève les saprophytes quand même.
Moi, c'est ce que je fais aussi. Cette année, ça m'a très bien réussi. Mais enfin, je connais des gens qui sont pour la taille à tout craint. Alors, chacun fait ça qu'il veut dans son jardin.
Exactement. Vive la liberté.
Et alors, un très très bel album, là, Les Roses Anglaises, de David Austin. David Austin est l'un des experts en matière de roses les plus célèbres, les plus compétents au monde, dit-on. On dit aussi qu'il a commencé à jardiner à l'âge de 4 ans. Et c'est lui qui a créé ce qu'on appelle maintenant la rose anglaise. Alors, son ouvrage est donc consacré aux 100 meilleures variétés. Il y a un chapitre sur l'histoire de la rose en général, et ensuite, les 100 plus belles variétés de roses anglaises. Avec toutes leurs caractéristiques, leurs caprices. Savez-vous qu'il y avait une rose dédiée à Sainte-Cécile? Elle s'appelle Sainte-Cécilia.
Non, mais c'est pas une rose anglaise, c'est une rose italienne, alors.
Et alors, il y a un petit... Alors, il y a tous les conseils de culture voulus. Là, il y a des photos vraiment splendides, il y a des dessins, des illustrations, des reproductions d'œuvres d'art. Et il y a un petit chapitre qui me plaît particulièrement, ce sont les roses anglaises dans la maison. Alors, il y a des conseils de cueillette, des conseils de soins, et ça c'est très important, beaucoup de personnes qui composent des bouquets les oublient, et ensuite elles pleurnichent parce que leur bouquet ne dure pas, et quelques très jolies compositions avec des roses anglaises de différentes couleurs. C'est un très... je pense que ça ferait un beau cadeau de fête des mères, ça. C'est un très très bel ouvrage, qui est publié par Larousse, qui coûte 38 €. Donc, Les Roses Anglaises, de David Austin. Voilà. Alors, j'espère que je vous ai...
Vous m'avez donné envie d'acquérir cet album.
Oui, quelques instants, parce que vos sujets sont extrêmement sérieux, mais passionnants.
Alors, la roseraie du Val-de-Marne, vous êtes prié de le retenir, c'est à L'Haÿ-les-Roses. Ah. On aurait pu s'en douter, d'ailleurs.
Merci
Cécilia. À bientôt, alors.
Au 27 juin.
Et continuez à profiter de votre belle province.
Quand est-ce que vous venez en profiter, vous aussi?
Je ne sais pas.
Voilà, 3 ans que vous me le prenez.
Franchement, vous savez, la vie est tellement dure.
Mais justement, vous verrez comme c'est paisible. Enfin, oui, si. Non, mais quand même, on est bien ici.
Non, mais le jour où je descendrai à Poitiers, ce sera pour d'autres activités dans lesquelles certains m'ont précédé il y a 13 siècles.
En 732?
En 732, voilà. Exactement.
Oui, vous nous rendez. Mais vous savez, il vaudra peut-être mieux aller ailleurs qu'à Poitiers, parce que dans la région, il n'y en a encore pas tellement.
Ah bon? Bon, bah, c'est bien.
Alors, ne nous mettons pas Martel en tête.
Ça va encore ici, pour l'instant.
À bientôt.
À bientôt, et bonne soirée à tous.
Voilà. Donc Cécilia, la délicieuse Cécilia.
J'ai un enchaînement tout trouvé, Serge, ouais. Puisque le libre journal numéro 408... publiait il y a une semaine environ 2 pages extrêmement denses, extrêmement claires, extrêmement intéressantes sur justement les semences non conformes de l'association Cocopelli contre l'agrochimie qui assassine la biodiversité. Ce numéro 408, donc, il a déjà quelques jours, et demain nous serons à l'imprimerie pour préparer le numéro 409. Vous avez touché un mot tout à l'heure d'un article de ça va de la page 14 d'un article de 10 pages intitulé « La France sous le joug de l'Empire israélo-américain ». Moi, je relève, j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je relève qu'il y a quand même 52 notes, C'est un côté universitaire extrêmement sérieux, extrêmement précis.
C'est pour donner tort à ceux qui prétendent qu'on dit n'importe quoi dans le journal, qu'on écrit n'importe quoi dans le journal.
Certainement.
Voilà.
Voilà, ce que j'ai pu lire par contre en ma qualité de secrétaire de rédaction et donc de correcteur, c'est la suite du feuilleton de notre correspondant à New Delhi qui va faire du rafting sur le fleuve sacré, je veux dire le Gange.
Il m'a changé le titre, je citais... Après, comme je descendais les fleuves impassibles.
Eh ben, vous allez voir comme c'est bête et mesquin, un secrétaire de rédaction. J'ai changé pour avoir un titre sur une ligne au lieu de deux et gagner la place d'avoir un corps un peu plus gros, un peu plus lisible. Mais naturellement, c'est vous le patron et vous rétablirez votre titre rimbaldien, si ça vous convient, demain. La géopolitique, c'est un numéro très peu géopolitique puisqu'il y a le pillage de la Yougoslavie également. Le livre de Jean de Brême, Le Testament d'un Européen, voilà, et puis bon, comme d'habitude, alors contrairement à l'habitude, notre monument historique est en ravalement. Je veux dire que ça scandalise sa chère amie Victoria. Je veux dire que François Brignot est malade. Donc il y aura.
Il est pas malade,
il est tombé,
il s'est cassé une côte. Et
c'est
vous allez
douloureux
dire,
et pour
ça n'a rien à voir avec l'écriture, mais si, parce que quand on a une côte cassée sur une côte flottante, quand on écrit la position de l'écrivain ou de l'écriveur,
ça
oblige à s'appuyer sur ses côtes, et c'est très douloureux. Donc il a commencé à écrire son article, et puis véritablement, il ne pouvait plus y arriver. Donc pour la première fois depuis, je ne sais pas, depuis des années, il a déposé un arrêt maladie que je lui ai accordé avec la générosité que vous me connaissez. Mais voilà. Il reviendra, je pense bien.
Voilà, alors j'en dirai pas davantage, sauf que moi j'invite les auditeurs, surtout ceux qui téléphonent pour dire qu'on parle trop vite, qu'ils n'ont pas le temps de noter. Alors je leur dis tout de suite de prendre un papier et un crayon, parce que quand je leur ai donné les références du Libre Journal, je vais redonner les références de nos livres. Il n'y a pas de raison qu'on passe des demi-heures et des heures à promouvoir les livres d'autrui et qu'on ne donne même pas l'adresse où on peut se procurer les nôtres. Donc, pour que ce numéro 408 et ce numéro 409 dont je viens de parler, pour chacun de ces numéros, on envoie un carnet de timbres de préférence, 5 euros à la rigueur. Pour s'abonner un an, c'est 110 euros, à l'ordre de SDB, 4 place Francis de Ralenti, pour que tout le monde ait le temps de noter, à l'ordre de SDB 4, place Francis, 75 010 Paris. Pour feuilleter notre collection gratuitement, c'est le site de nos amis sur Internet, francecourtoise.info. Le livre du Marquis est en vente, notamment à la librairie du Petit Pont, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e, en face de Notre-Dame. Par correspondance, c'est 12 euros. À l'ordre de Jean-Paul Chériguès de Olmeta, 93 rue du Ruisseau, 75 018. Le dernier livre de Serge de Bekech qui s'intitule Le catalogue des nuisibles, par correspondance Serge, Franco de Port, c'est 24 ou 25, je ne sais jamais.
24.
C'est 24 euros, donc Franco de Port, à l'ordre cette fois de Serge de Bekech. Alors, même adresse que précédemment, 4 place Francis, 75 010 Paris. Et puisqu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même, mon dernier chef-d'œuvre à moi, Batafan de tous les jours, c'est 10 euros franco, à l'ordre de Patrick Goffman, chez Serge de Bekech, 4 place Francis, 75 010 Paris. Voilà, l'autopromotion est terminée.
Ah,
elle vous a plu?
Oui, enfin, moi, je trouve ça un peu ennuyeux à force, mais qu'est-ce que vous voulez? On est obligé de vous laisser libre cours à votre verve naturelle.
C'est vrai que je vous ai déjà vu plus enthousiaste.
Bon, mais moi, je suis très enthousiaste parce que je viens de feuilleter je les avais déjà regardés, mais je viens de refeuilleter les livres de Raymond Forlani. Comme chien et chat, et 425 chats, leurs chiens et autres bestioles. Et alors, c'est vraiment... c'est charmant. Mais vous êtes vous-même un chat, Raymond, à l'évidence, parce que vous parlez leur langue, c'est très clair. Vous les...
Non, j'aime bien les chats, mais enfin, faut pas exagérer.
Si vous les traduisez...
Non, j'ai pas beaucoup d'imagination, alors comme j'aime faire des choses avec des crayons, du papier et tout, bah, quand j'ai des, je dessine ce que je vois, donc je vois au moins mes chats, ma chatte, parce que moi j'ai juste une chatte.
Lily?
Oui, Lily, eh ben, je la dessine et puis c'est tout, quoi. Enfin, faut pas en faire un fromage non
mais
plus, quoi.
Comment vous savez qu'elle a des relations avec d'autres chats? Vous l'espionnez ou vous surveillez?
Non, mais je veux dire, je brode. Je vois, disons que j'aime beaucoup les chats, les chiens, mais j'aime beaucoup les éléphants aussi, mais j'en ai pas chez moi. C'est... Je leur en veux, il y en a un qui a tué, j'avais...
Vous habitez en étage, non?
Comment?
Vous habitez en étage?
Non, 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 mais je... non, mais ça va, mais les éléphants, j'aimais beaucoup les éléphants, il y en a un qui a tué un copain à moi, il s'appelait Claude Santelli. Vous savez, Claude Santelli, oui. Et il a été tué par un éléphant.
Ah, je sais.
Mais si, il faisait une émission dans un cirque, il s'est approché de trop près de l'éléphant, et il est mort, l'éléphant l'a attrapé, l'a laissé choir. Alors depuis, je suis un peu en froid avec les éléphants.
Vous savez que quand je vais au cirque, qu'il y a des parades d'éléphants, des trucs comme ça, je suis toujours inquiet, parce que moi, j'arrive pas à croire que ces énormes bestioles soient parfaitement paisibles. Et je me dis, il peut très bien leur prendre un coup de folie, alors là... Ça va être très très difficile à gérer, comme on dit maintenant.
15 secondes, enfin 30 secondes pour vous raconter mon plus beau souvenir d'éléphant à une époque où je faisais de la radio avec un truc qui s'appelait le Radio Circus.
Ouais.
Vous qui avez travaillé à Pilote, Serge Beckett, vous avez connu le Radio Circus, Zapimax, tout ça, etc. Et moi je faisais des émissions de radio et j'allais au Radio Circus. Bon, je faisais pas partie du cirque, je vivais pas dans une roulotte, mais j'allais dans les villes où il y avait le Radio Circus pour m'occuper d'émissions de radio. Et il y avait cet immense chapiteau, c'était le cirque Grus, un très grand cirque, cet immense chapiteau, et c'était fascinant, à l'époque j'avais 20 ans et tout, ça m'amusait de voir ça. Et un jour je suis rentré sous le chapiteau un matin, et il y avait vide, entièrement vide, il y avait un beau soleil, il faisait très clair, il y avait un piano peint en rose, comme ça, un piano de bidon, un piano de cirque, comme ça, et il y avait un éléphant, la patte attachée, qui était assis sur un petit tabouret, qui était face au piano. Il était tout seul là-bas, je sais pas, son cornac était parti pisser ou je sais pas quoi. Il y avait l'éléphant tout seul sur son petit tabouret. Et cet éléphant avec sa trompe, il jouait au clair de la lune. Il faisait ding, 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 ding. Il faisait une fausse note. Il reprenait depuis le début. Ding, ding, ding. Et je suis resté médusé. Et depuis, j'adore les éléphants. Ah, c'est tout.
L'éléphant était pas rouge.
C'est non, c'est un petit éléphant gentil, mais très mignon. Mais c'est génial, quoi.
Ah oui, c'est une histoire complètement surréaliste. Et d'ailleurs, qui ressemble un peu à vos histoires de chats. Il y a pas. Alors, c'est une. Il faut que j'explique. D'abord, c'est des beaux livres. Ils sont bien.
Des albums, ça s'appelle.
Des albums.
Oui. Des albums.
Mais c'est bien fait.
Ils disent ça en couleur, de l'aquarelle.
Des aquarelles en couleur et des légendes. Alors,
quand c'est pas en couleur, c'est du lavis, je crois.
Ouais, bah, il y a une seule couleur. Il y a le noir et blanc, il y a le lavis quand il y a une seule couleur. Voilà. On va faire un cours de dessin. À la radio, c'est dur de faire des cours de dessin.
On y arrive quand même. Rien n'est impossible, courtoisie.
Par exemple, il y a un dessin qui montre un chat qui s'est pris la queue dans une tapette à rat. Alors, la souris, plutôt. Il y a une souris qui regarde, qui dit, c'est con que je parle pas parce qu'il y aurait beaucoup à dire.
Non, vous, mais je veux dire, c'est sur des, vous savez, ma méthode, enfin bon. Vous savez pourquoi je dessine autant? Je vais vous expliquer. Toute ma vie, j'ai dessiné. Puis, bon, il y a quelques années, pour des raisons faciles à expliquer, on m'a enlevé un poumon. Alors, depuis, je ne fume plus. Et à chaque coup que j'ai envie de fumer, depuis 4 ans que ça m'est arrivé, je fais un dessin. C'est le seul truc qui me calme. Alors, j'ai toujours des crayons sur moi, je peux vous montrer, j'ai tout ce qu'il faut dans ma poche. Et je fais un petit. C'est comme ça que je fais des bouquins.
Mais vous avez appris le dessin ou c'est...
Vaguement, quand j'étais môme, oui. Non, mais je veux dire, ma première éducation, c'était Félix le Chat, voilà.
Ah oui.
Vous êtes trop jeune pour connaître
non,
ça.
Non, je connais Félix.
Mais si, vous avez connu après, mais les premiers albums de Félix le Chat par M. Pat Sullivan, et je dessinais des petits chats, j'ai copié Félix le Chat, voilà. Et maintenant, j'ai 80 balais, et je suis toujours sous le coup des Félix le Chat de mon enfance, alors j'en fais maintenant, voilà.
D'ailleurs, vous en parlez dans votre album, puisque vous dites...
Je parle, oui, mais il m'arrive de parler.
Il y a une palanquée de chats, il y en a un qui dit... Émerger de la foule, devenir quelqu'un, genre Félix le Chat.
Ben oui, parce que c'est mon auteur de base, quoi. Félix au pays de l'ogre, c'est mon premier livre. Je savais même pas lire à l'époque, on me l'a lu, puis je l'ai toujours d'ailleurs. Et quand j'ai besoin d'émotion, il y en a qui se plongent dans Proust ou dans Céline. Céline aussi, ça m'arrive, Proust non. Et Félix le Chat. Félix au pays de l'ogre. Chef d'œuvre absolu.
Rien trouvable, probablement.
Ah, chez moi, on le trouve, mais je le planque. Mais ah ouais. Non, on le trouve de temps en temps dans des libraires d'occasion, mais ça vaut assez cher maintenant. Mais formidable. Félix au pays de l'Ogre. Hoffmann n'a pas lu.
Si, moi je lisais Félix le chat quand j'étais petit.
Aussi. Mais pas le vrai, si, c'était déjà des ressucés, non?
C'était chez ma marraine à l'autre bout de Paris, donc c'était vraiment...
chez les marraines à l'autre bout de Paris, souvent c'est bon.
C'était, je l'avais pas à la maison, c'était déjà précieux, parce que j'ai quelques années de moins que vous, donc c'était
une question
qu'on me prêtait exceptionnellement et brièvement.
Ah, moi je prête pas, hein, même mes... j'ai des petits-enfants, mais ils ont jamais vu Félix le chat, qui... ah, non, quand même.
Ils se sauveraient avec.
Il y a un côté audiard, il y a un chat qui regarde un autre chat, qui a un oiseau posé sur lui, et il lui dit, je ne dis pas qu'il n'est pas sympa, je dis qu'on ne copine pas avec un oiseau c'est de la nourriture.
Bah oui, oui ça c'est assez audiard, de raison.
Vos chats sont racistes.
Oui, la preuve, le chat qui regarde un lapin, il lui dit, les grandes oreilles ça me tente assez, mais c'est l'idée de devenir gracieux qui me chiffonne. Et puis, il y a une très très violente attaque contre Buffon.
Ah non, ça, oui, c'est dans l'autre bouquin. Dans l'autre. Non, ben Buffon. Alors, on vient de rééditer Buffon dans la Pléiade. Mmh. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, pour moi c'est un événement, parce que bon, Buffon c'est quand même un grand bonhomme, un grand auteur, c'est le Jardin des Plantes, c'est bon. On vient de rééditer Buffon, et si vous lisez Buffon, vous verrez ce qu'il dit des chats.
Oui, alors,
il... alors qu'il dit du bien de certains animaux, on se demande pourquoi. Il dit un mal des chats, il dit que c'est des petits voleurs, des voyous. Non, mais c'est fou.
Il est
porté sur leur larcin et tout.
Mal.
Et je vous signale respectueusement, par ailleurs, puisque Buffon vient de ressortir, enfin, on vient de sortir un bouquin de la Pléiade qui fait 1600 pages papier Bible et tout, et qu'il y a des pages de Buffon, alors ça pourrait quand même vous intéresser, il y a des pages de Buffon où il parle des autres peuples, des hommes, et ce qu'il dit des Noirs, qu'il appelle des Nègres, bien sûr, comme au XVIIIe siècle, s'il écrivait ça aujourd'hui, il serait en tôle.
Alors comment la Pléiade peut-elle oser diffuser une...
Bon, il y a le Marquis de Sade, il y a Saint-Augustin, il y a plein de choses. Hein.
Ouais, Saint-Augustin et le Marquis de Sade
ne
disaient pas du mal des... personne dont...
Écoutez, procurez-vous le Buffon et lisez-en des extraits, donc si ça vous amuse.
S'il est aussi gentil avec les nains qu'avec les chats, ça va être joyeux, parce qu'il dit « Le chat est un domestique infidèle qu'on ne garde que par nécessité. Il a une malice innée, un caractère faux, un naturel pervers que l'âge augmente encore et que l'éducation ne fait que masquer. »
Ah oui, oui, non, oui.
De voleur déterminé, il devient, quand il est bien élevé, souple et flatteur comme les fripons. Il a comme eux le goût pour faire le mal, le même penchant à la petite rapine. Alors oui. Il y a un chat qui écoute ça et qui dit, pour proférer des âneries pareilles, il fallait qu'il en ait de la malignité sous la perruque de Gugus, le grand naturaliste.
Et surtout de l'anthropomorphisme. C'est sidérant de la part d'un grand naturaliste, du fondateur même du naturalisme en France, qui tient des propos anthropomorphistes.
Je me suis plongé là dans Buffon, ben, ça je le connaissais depuis longtemps, parce qu'il est dans un bouquin que j'ai fait il y a quelque temps, mais je me suis plongé dans Buffon, il dit que l'animal le plus inutile, c'est la girafe. Non, ça, tout ce qu'il se trouve à dire de la girafe, il dit vraiment c'est l'animal le plus inutile.
Oui, c'est vrai d'ailleurs.
C'est marrant comme truc.
Le rhinocéros, pas très utile.
Le chat, c'est un vicieux. Alors par contre, il est beaucoup de bien de certains animaux. Il y a notamment, je crois que c'est la marmotte qui a le plus grand sexe, des choses comme ça. Il est très émerveillé là. Non, mais ça vaut le coup.
La taupe, il en parle, non?
Comment?
La taupe.
Il parle de la taupe aussi.
Il y a un de vos chats qui demande à une taupe de lui prouver qu'elle n'est pas une balle de golf. Elle sort de son trou. Il dit...
Bon, enfin, tout ça, c'est des bêtises, quoi. Voilà.
Mais c'est charmant, c'est d'abord très joliment dessiné, les petits dessins faussement naïfs.
Pas faussement, mais pourquoi faussement?
Parce que c'est pas vraiment naïf. Il y a une habileté du trait quand même.
Croyez? Moi je crois que je suis naïf.
Non.
Parce que ça se saurait. Et puis, de très jolies aquarelles.
Alors, ah bah oui, je m'applique.
De l'aquarelle.
Mais parce que je fume plus.
Ah, il faut bien.
Anouilh, on lui a interdit de fumer, il en est mort.
Oui, ma grand-mère aussi.
Bah ouais, il n'arrivait plus à écrire. Anouilh, il montait dans son bureau, puis il avait tout ce qu'il fallait pour fumer, puis il n'a plus le droit de fumer. Il s'est laissé mourir. Bon, moi, je ne veux pas me laisser mourir tout de suite, j'ai encore des choses à faire. Donc, je fais des petits dessins.
Il y a quelque chose, Serge, que les auditeurs ne voient pas et que moi je ne comprends pas, c'est que vous avez trois livres assez épais devant vous. Alors comment se fait ça?
Bah, d'abord parce que M. Fornali a eu...
Non, parce qu'il y a eu le dernier là qui s'appelle
«
Comme chien et chat » que j'avais envoyé à M. Blequet. Et depuis, comme il a l'air de s'intéresser à ça, et puis c'est les invendus, quoi. Il y a des auteurs, ils les brûlent, ils les jettent.
Trois livres différents.
Moi, je les donne à Blequet. Voilà.
Mais moi, je suis certain que vous avez été cher dans une autre vie, parce que c'est, il y a des choses, c'est évident que c'est ça qu'ils pensent, les chats. Il y a des gosses qui sont en train de jouer avec un chat comme les enfants jouent, et ils disent, les enfants, c'est gentil comme tout, mais par amour, ça vous tuerait.
Bah oui, c'est vrai. Non, mais je veux dire, j'observe, je regarde, quoi. Mais il y en a les autres avant moi, je veux dire, je viens de relire Léoto quand il parle des chats, c'est quand même mieux que moi, quoi. Il y a beaucoup d'autres, quand même.
Ah oui, mais il y a moins d'aquarelles chez Léoto.
Il faisait pas d'aquarelles, Léoto.
Voilà, c'est pour ça.
Ah bah oui, mais ça, c'est ma force.
Il y a même un lavis, puisque Goffman en parlait tout à l'heure. En admettant que ça pense, les chiens et les gamins, ça doit pas voler bien haut leurs idées, dit un chat. Bon, alors, en dehors de... Enfin, quand vous ne dessiniez pas de chat, vous faisiez autre chose et vous avez été un pilote.
Bah, j'ai été de l'équipe de fondation du journal Pilote, où vous avez travaillé ensuite.
Ouais, après,
à une époque, j'étais déjà parti, moi.
C'est parti, c'est ça. Donc, vous avez connu Goscinny.
C'est très bien, oui.
Quel souvenir avez-vous gardé de lui?
Bah, le souvenir d'un type très, très rigolo, très drôle, très marrant, très bon homme d'affaires. Mais vous savez, Pilote, hein, bon, il y a une histoire. Il y a deux, trois bouquins où on peut lire ça. En fait, on s'est fait voler Pilote. Pilote est un truc qui est né à l'époque, ah bon, on dit tout, je travaillais à la publicité chez Montsavon, L'Oréal. Voilà, avec Lucien Combel notamment.
Ah oui, oui.
Mais de qui je veux parler?
Oh bah, je peux très
Jean-François bien. Kiap, à la Lucien, publicité.
On peut dire maintenant, puisqu'il y a prescription, Lucien Combel a été un des grands, une des grandes plumes de la
Révolution nationale. La
Révolution nationale, voilà.
Il a été secrétaire de Gide, il a fait Révolution nationale, il a été condamné à mort, il en est sorti. Et
moi, quand je l'ai connu, il se baladait à Paris déguisé en cow-boy.
Hein?
Vous vous rappelez de ça?
Mmh.
Toujours un chapeau de cow-boy, un petit lacet autour du cou, sans doute pour évoquer le sort auquel il avait échappé en 45. Et,
alors, Lucien Combel travaillait à la publicité de L'Oréal, ainsi que Jean-François Kiap, qui ensuite s'est fait connaître surtout comme historien, que j'avais dû connaître aussi. Bon, et moi j'étais
entendu sur cette antenne, très souvent.
Bah, bien sûr, oui. Bon, et, bon mais alors, il y avait une raison, si on veut remonter à certaines sources, on retrouve tous ces gens-là un peu parce que, à l'origine, il y avait un monsieur Schweller, lequel monsieur Schweller avait des raisons de recueillir des gens qui sortaient de prison après l'épuration. N'est-ce pas?
Oui, c'est tout
voilà.
À fait vrai.
J'étais, bon. Et il y en a qui...
était le fondateur du MSR,
voilà.
Le mouvement social révolutionnaire.
Et il avait aussi...
C'était MSR.
Alors moi, je travaillais rue Boissy d'Anglas, où il y avait le service publicitaire de L'Oréal, Montsavon. Et il y avait, dans le même immeuble, il y avait le journal Votre Beauté, rédacteur en chef, François Mitterrand.
François Mitterrand, le bon. Président du club des gens beaux.
Voilà, bon. Etc, etc. Bon. Et à l'époque, on a fait une émission de radio pour Montsavon, sur Radio Luxembourg, c'était pas encore RTL, c'est Radio...
Dop,
oui. Bon, et on a fait une émission pour Montsavon, qui s'appelait Salut Marcel, avec un petit garçon qui s'appelait Rodolphe. Et à l'époque, il y avait des films publicitaires, c'était un grand... Bon, et on a dit, on va faire un journal. Et on est parti là-dessus avec un monsieur qui s'appelait Monsieur Cloteau, qui était le chef de pub de L'Oréal Montsavon. Et on a commencé à faire une maquette de journal. Et puis, ça devenait compliqué, etc. Et on s'est associé avec une petite équipe qui était des débutants, qui s'appelait Uderzo, Goscinny, Charlier et tout. Puis voilà, quoi. Et c'est pour ça que j'ai été dans les débuts de Pilote. Et puis après, bon, on s'est fait un peu bouffer par la route.
Pilote, à cette époque-là, c'était une véritable révolution dans les magazines pour la jeunesse.
Bah, oui, c'est-à-dire, il y avait un côté magazine, il n'y avait pas que des bandes dessinées. Il y avait
notamment le Pilotorama, qui était la page centrale.
Pilotorama, oui.
Sur le plan de la didactique, c'était un travail formidable.
Mais non, mais c'était très bien fait. Bah, Combel en écrivait.
Combel écrivait les scénarios des Pilotoramas. Donc c'était, par exemple, la construction des pyramides. Alors il y avait quelques pages de bande dessinée avec du texte dessous qui racontait comment on construisait les pyramides. Et la page centrale, la double page centrale, c'était un dessin en couleur qui montrait la construction d'une pyramide avec les appareils, les détails techniques, etc., etc. Et on se servait de ça pour mettre dans ses cahiers d'histoire.
Non, mais c'était un bon canard.
Oui, c'était bien fait, bien sûr.
Non, mais ils sont sortis Astérix, ils ont sorti beaucoup de choses, les Chevaliers du Ciel.
Hein? Les aventures de Oumpapa. C'était quand même Goscinny et Uderzo qui étaient les...
Alors, Uderzo, il continue, hein, attendez.
Et Charlier...
Vous dites c'était...
Oui, mais il n'y a plus de pilote.
Non, mais il y a toujours eu des réseaux. Bon, et alors, c'est vrai que Goscinny et Charlier étaient deux génies du scénario. C'est vrai que Goscinny me jouait. Bon, après, on s'est engueulé pour d'autres raisons, mais ça, c'est nos problèmes à nous. Mais il faut reconnaître qu'il avait énormément d'humour, de talent, puis c'était un bosseur formidable. Et ouais, quoi.
Moi, j'ai connu, alors que c'était déjà un homme, c'était déjà un grand bonhomme.
Ah oui, il était.
Il était déjà célébrissime et tout à fait installé. Et ce qui me stupéfiait, c'était l'extraordinaire courtoisie de cet homme.
Il était très poli.
Toujours d'une politesse.
Bien cravaté.
Impeccablement. Il sortait d'une boîte et il avait un bureau, il avait un grand bureau chez Dargaud, à Neuilly, qui était totalement vide. Il n'y avait pas une décoration sur les murs. Les murs étaient blancs, les meubles étaient en acajou. Son bureau était un grand bureau en acajou sur lequel il y avait exclusivement une feuille de papier blanc et un crayon parfaitement taillé. C'est tout. Et il vous recevait dans ce bureau. Et alors il disait, par exemple, Monsieur de Beketch, votre scénario est excellent. Vous êtes vraiment, vous avez beaucoup, beaucoup de talent. C'est très, très bien ce que vous faites. Je suis très content. Et je pense même qu'avec le talent que vous avez, vous pourriez faire quelque chose d'un peu mieux. Ça veut dire, bon, prenez votre scénario, vous le carrez où je pense. Mais c'était quand même plus agréable à entendre.
Ah ouais, non, mais c'est un type assez formidable, vous voyez. Puis après, on s'est engueulé, mais ça, c'est la vie, quoi.
Et puis, vous avez fait du cinéma aussi. Alors, on en parle beaucoup maintenant, puisque j'ai entendu que Spielberg avait acheté les droits pour faire un film. Mais vous avez été le premier à faire un scénario, le film de Tintin.
Avec André Barret, où on a écrit le premier scénario qui s'appelait Tintin et le mystère de la toison d'or, qui n'est pas une adaptation d'un album. Thierry Hergé voulait bien qu'on fasse un film avec des personnages de chair et d'os, mais à condition de ne pas prendre un album. Et alors, bon, on a fait un film qui a été réalisé par Jean-Jacques Vierne, que j'ai revu l'autre fois, que pas si mal que ça.
Et Tintin et les oranges bleues aussi.
Pardon ?
Tintin et les oranges bleues.
Ah oui, mais là, j'ai commencé le scénario, puis après, ouais. Je suis parti.
Comment ça m'amuse, l'histoire de Tintin, si vous voulez bien nous en parler, parce que vous avez fait... Le pari, au départ, était un pari fou, c'est-à-dire il fallait trouver des personnages vivants qui pouvaient ressembler au personnage de Tintin. Bon, ce qui était impossible. Tintin, c'est un rond, un gros rond avec un petit rond qui est le pif, les deux points noirs pour faire les yeux.
C'est Bécassine, sans sa coiffe, voilà, avec un toupet, quoi. Bon.
Mais ce qui est formidable, c'est que vous avez dégoté un comédien qui est un jeune belge, je crois.
Ben, c'est une des filles d'un des mecs du studio d'Hergé, qui a rencontré sur une plage comme ça un jeune moniteur de gym qui effectivement ressemblait à Tintin.
Jean-Pierre Talbot, il s'appelait.
Jean-Pierre Talbot. C'est vrai qu'il ressemblait à Tintin. Bon, c'était pas un bon acteur, ni rien du tout, mais il ressemblait à Tintin avec le pantalon golf, le chandail bleu, la petite chemisette et tout, les pompes qu'il fallait. C'était Tintin. Puis après, Wilson a fait ad hoc.
Il était formidable, Wilson.
Ouais, non, mais je sais pas, on a trouvé pour les Dupont, enfin, ils ont trouvé, parce que moi j'étais uniquement à l'écriture, là. Ils ont trouvé les gens qu'il fallait, quoi. Ouais. Il y avait un type qui s'appelait le clown Loriot qui faisait tournesol, qui était très bien aussi. Ouais.
Et pour me le film, très réussi sur le plan de l'incarnation des personnages.
Non, c'était bien fait.
Le film n'était pas mauvais, mais c'est vrai que Jean-Pierre Talbot n'avait pas un talent
éclatant. Non, mais
c'est pas nécessaire.
C'est un film qui coûtait pas très cher, qui avait été fait comme ça.
Qui rapportait pas beaucoup non plus.
Comment ?
Ça a été un gros succès ou moyen ?
Normal, mais je veux dire. Il continue à être distribué pas mal parce que je touche encore des droits d'auteur. Oh. Voilà, faut dire les choses comme elles sont. Et tout ce que je fais de ce film, de temps en temps, ben, pas beaucoup. Ben, je reçois 150 euros, des trucs comme ça. Je dis, ben, tiens, il était projeté, je sais pas où, à Montevideo ou à Pékin, je m'en fous. Enfin bon, la SACD m'envoie des droits d'auteur, donc c'est que ça roule toujours.
Et vous n'avez pas été contacté par Spielberg pour le scénario ?
Pas du tout, non. Non, de toute façon, maintenant, les droits de Tintin, il y a une équipe. Enfin, il y a une veuve, il y a... Oh là là. C'est une citadelle, c'est une forteresse. Tintin, ils n'ont pas besoin de moi. Hein.
Vous avez fait combien de films, en fait ? Une douzaine, je crois.
À quel titre ?
À titre de réalisateur, d'abord.
Non, j'en ai fait un comme réalisateur.
Un seul comme réalisateur.
Oui, qui s'appelait Juliette et Juliette, oui. Avec Girardo, Jobert et Pierre Richard, et d'autres. Paulette Dubost, merveilleuse Paulette Dubost, ouais. Qui a joué Bécassine au temps du Noir et Blanc. Vous n'étiez pas nés ni les uns ni les autres. Bon. Puis, comme scénariste, j'ai travaillé sur une vingtaine de films. plus ou moins bon. Et puis j'ai été comédien dans De Godard, voilà.
Oui, ça, je me souviens.
Si je ne les ai pas vus.
Si, bien sûr. Alors, les titres, je suis incapable de les donner, mais je me souviens très très bien.
Madine USA.
Madine USA, voilà.
Et le dernier sur l'amour, enfin l'avant-dernier, etc. Bon.
Et comment...
Éloge de l'amour.
Quel souvenir ça vous laisse d'avoir travaillé avec Godard ?
Oh, moi j'aime bien Godard, moi il est rigolo. Oui. Il est un Suisse, quoi. Oui.
Le Mao le plus con de Suisse, disait un de ses collaborateurs.
Non, il est Suisse, il est gentil.
Il est Mao.
La dernière fois que je l'ai vu, il m'a pleuré sur l'épaule, parce qu'il m'a dit, t'as un fils, moi j'en ai pas. Non, moi je sais pas, Godard sont des gens comme ça, bon, c'est le mérite d'être un vieux con comme moi, quoi. J'ai connu tous ces gens-là avant même qu'ils soient connus, quoi. Je veux dire, Truffaut, je travaillais dans un truc qui s'appelait Travail et Culture. Truffaut était garçon de course et il volait les sourds, lui avait acheté des timbres, il revenait pas pendant 2 jours. Bon, pour moi Truffaut, après maintenant il y a des ciné-clubs François Truffaut, des avenues François Truffaut. Pour moi c'est le petit garçon de course qui volait le pognon parce qu'il était très marrant, quoi. Et c'est ça le prestige des vieux schnocks.
Dans ses mémoires, Jean-Pierre Chabrol dit « Bientôt, je passais du vol au commerce pur et simple. »
Oui, oui, oui. Non, mais je veux dire, c'est tout. Chabrol, je les connais tous.
C'est un personnage assez... il est extrêmement sympathique.
Oui, non, mais je veux dire, il y a plein de gens que je... Ouais. Alors malheureusement, maintenant, de temps en temps, il y a des bouquins de mémoire, puis d'un seul coup, ils racontent des trucs. L'autre jour, je l'ai encore un truc, là, qu'un type de Sim Solo m'a envoyé un bouquin, etc. Alors, j'étais à la table de Raymond Forlani, moi, je me rappelle pas. Moi. C'est formidable.
C'est formidable, moi.
Ouais, ouais.
C'est ça, d'être une célébrité.
Ben voilà, ouais, je suis dans les mémoires de Coluche, je suis dans un tas de gens. Voilà, quoi.
Et la radio, donc, vous avez été à RTL pendant...
J'y suis toujours, à RTL. Depuis... Enfin, pas ce soir. Hein, pas... Manifestement, pas ce soir.
Pas ce soir, oui. Et ça fait...
Non, donc, RTL, bon, attendez...
Vraiment, c'est Luxembourg, il y a 60 ans.
C'est l'interrogatoire, là. J'ai franchi pour la première fois la porte du 22 rue Bayard, Radio Luxembourg, il y a 55 ans.
Ouais.
Voilà. C'était Radio Luxembourg, et à l'époque, j'écrivais des feuilletons. On écrivait des trucs qui n'en finissaient pas, le fameux Salut Marcel, Ça va bouillir avec Zapimax, des choses comme ça, l'inspecteur Vitos, le roman de l'accordéon, des trucs absolument insensés. Alors c'est pareil, là j'ai connu tous les comédiens. Pierre Mondy, Maurice Cheville, tous ces gens-là, tous quoi.
Mais ces personnages-là, je me souviens, Ça va bouillir, il y avait une version en bande dessinée aussi de ça.
Il y a eu des albums, oui.
Et l'inspecteur Vitos aussi. Il y a eu
Tout ça, c'est vieux, je veux dire, maintenant on parle de ça, c'est... Vitos, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Vitos, c'était une marque de bas, si je me souviens bien.
Quoi? Vitos, oui.
C'était une marque de bas.
Oui, oui.
Et comment ça conduit à l'écriture pour le théâtre, ça?
Je sais pas. Je peux rien vous dire. Tout ce que je sais, c'est que mon père était cimentier. Il voulait que je sois cimentier. Ma mère voulait que j'entre au PTT. Poste de télégraphe et téléphone, parce qu'il aura une retraite.
Et il court encore.
Ouais, bon, alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un peu l'apprenti cimentier avec mon père. Les PTT, non. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas fait pour faire un vrai métier. Ouais. Je ne fais pas partie de la France que veut Sarkozy, des gens qui se lèvent tôt, qui travaillent. Je suis un feignant et j'ai eu la chance d'arriver à être feignant toute ma vie, d'être plutôt pas mal payé en faisant des choses qui me font marrer, quoi, c'est tout, quoi.
Et le rôle des parents dans ce genre de circonstances, dans ce genre dans la détermination d'une carrière est assez faible finalement.
Rôle des parents, ils avaient raison.
Oui.
Mon père était un cimentier italien, il voulait que je sois cimentier italien. Bon.
Pas,
oui. Et puis je suis plus italien, je suis pas cimentier. Bon. Ma mère, elle avait un frère qui était facteur, qui gagnait bien sa vie, qui était tranquille. Bah, pourquoi pas? Ouais, mais il aurait fallu être plus courageux.
Quand je suis allé voir mon grand-père en lui disant « Ça y est, je suis rédacteur en chef de Minute », il a fait ce qu'il faisait toujours, chaque fois que j'allais le voir depuis que j'avais 18 ans. Il est allé, il m'a emmené dans son bureau, il a ouvert un dossier, il m'a dit « Voilà, je donne toi adresse et date de concours pour entrer dans la fonction publique.
Ouais. »
Et alors il y avait toujours un paquet de trucs qu'il découpait dans France Soir ou dans je sais quel journal, où il y avait ouverture d'un concours pour commis aux écritures au ministère des surnuméraires appointés. Et alors il me disait « Tu t'es levé, essayez pas ces concours-là pour avoir métier sérieux. » Et
j'étais arrivé très fier en disant que je venais d'être nommé rédacteur en chef de Minute, et il m'a tendu son dossier en disant non, voilà qu'est-ce qu'il concours cette semaine.
Mais voilà, donc, qu'on fait, on fait comme on peut, quoi.
Semaine d'incompréhension.
On fait comme on peut, mais je veux dire, j'ai cheminé gentiment. Et puis je suis arrivé au Sommet de la Gloire parce qu'on m'invite à Radio Courtoisie pour me poser des questions, alors quand même. Mais c'est vous dire
à quel point je vous êtes devenu une vedette internationale.
Ben oui, c'est vous. Il y a Elton John, c'est moi, quoi.
Mais qu'est-ce qui vous a donné le plus de plaisir? C'est la radio, le théâtre, le cinéma? Qu'est-ce que vous aimez le plus faire?
Tout en réalité, quand je dessine un petit chat, s'il est réussi, je suis content. J'ai écrit, j'ai fait jouer 9 pièces de théâtre, j'ai eu des succès, j'ai eu des bides. Je sais pas, on est toujours content, quoi. On est mortel, voilà. L'ennui, c'est qu'on est mortel. Pour le reste, on est content, quoi, non?
Je sais pas, c'est un ennui, parce que je pense, au bout de 400 ans, on doit commencer à drôlement à s'enquiquiner, hein.
Je sais pas, pour l'emballe, oui, j'en suis pas. J'en suis au cinquième, là, on verra. Ouais. Les 420 années qui me restent à vivre, on verra.
Oui, c'est ça.
320 années.
Le cinquième à parcourir.
Non, mais je suis pas pressé, je suis bien, là.
C'est peut-être la mort qui donne son sel à l'existence.
Oui. Pardon?
C'est peut-être la mort qui donne tout son sel à l'existence.
C'est beau comme tout, ça.
Oui, je pense, c'est une phrase de philosophe, ça. Non, j'espère qu'il y a ce qu'on m'a appris au cathé, c'est vrai, quoi, c'est tout.
Il n'y a pas de doute là-dessus.
Malheureusement, de temps en temps, il y a des doutes, même dans ma tête.
Mmh. Ah oui, mais c'est ce qui rend le jeu intéressant.
Mais voilà, quoi. Mais alors, à part ça, non, je suis content, je suis toujours content, là, ce soir, je suis content, quoi.
Pour vous montrer à quel point le monde change, un auditeur nous dit, pour l'adaptation américaine de Tintin, il est question sérieusement de prendre une vedette féminine pour la grimer en garçon.
Je crois pas beaucoup, ça.
Si, mais le monde change pas, Serge, rappelez-vous.
Noir et naine.
Rappelez-vous les jeunes filles de Madame de Maintenant, je crois qu'ils jouaient tous les rôles.
Ah ouais, elles ont créé les dernières pièces de Racine.
Voilà, hein. Et toutes les époques et tous les pays où les femmes n'avaient pas le droit. Ah,
Shakespeare.
Au contraire. Et donc les rôles de femmes étaient tenus par des hommes. Ça, c'est pas un changement. Et ça pourrait se discuter parce que Jean-Pierre Talbot, dont on parlait tout à l'heure, il était peut-être trop mûr et trop viril pour être convaincant. C'est vrai que Tintin est à mi-chemin entre l'enfance et l'adolescence. C'est très...
Non, c'est un ado... je sais pas. C'est Bécassine sans sa coiffe, c'est vrai. Il ressemble à Bécassine et à la tête de Bécassine.
Alors, savez-vous, monsieur, que la girafe, fort dédaignée par Buffon... eut son heure de gloire dans les années 1830 lors de son déplacement à pied, de Marseille à Paris, par étapes. Elle attira toutes les foules avant de rejoindre le muséum, ce qui demeure encore une énigme, et sa disparition pendant la guerre... Ce qui demeure encore une énigme, sa disparition pendant la guerre de 14-18. Moi, je pense qu'elle a foutu le camp parce qu'elle a déserté, quoi, tout simplement, hein. Où son corps naturalisé aurait servi de cible dans les tranchées de Verdun en 1916. C'est amusant, ça. C'est
intéressant.
C'est un qui nous raconte ça. Effectivement, l'aventure de la girafe traversant Paris, mais traversant la France en 1830, mais Buffon, c'était 130 ans plus tôt. Donc.
Il y a eu une histoire pendant la Révolution aussi. Les deux éléphants, je ne sais plus comment ils se nommaient, mais que j'ai trouvé, parce que à un moment, quand je faisais de la télé, j'avais fait un petit boulot au Jardin des Plantes. Il y avait deux éléphants que le comité révolutionnaire parisien avait offert au Stratoudeur, je sais plus comment ça s'appelait, de Hollande.
Stratoudeur.
Et ils sont partis de Paris, les éléphants, deux éléphants, un couple, je sais plus comment ils s'appelaient, bon, excusez-moi, mais j'avais les noms dans la tête, je les ai plus. Avec une vingtaine de soldats pour les encadrer, ils sont partis à pied jusqu'à, je sais plus dans quelle ville hollandaise, comme ça. Et c'était un sujet de film formidable, j'ai essayé de le vendre, j'ai jamais réussi. Je sais plus comment ça s'appelait.
J'en profite pour vous dire que j'ai eu l'occasion de manger de la trompe d'éléphant, car il y a quelques années, un épicier qui était installé dans le quartier de l'Opéra, Paul Corcelet.
J'ai connu, oui. Ouais.
Il m'a fait manger beaucoup de choses, et un jour il m'a dit, voilà, c'est exceptionnel, je lui ai dit, qu'est-ce que c'est? Ça ressemblait étrangement à de la tête de veau, ça aurait peut-être fait plaisir à notre ancien président de la République, et en vinaigrette, j'ai mangé de la tête de veau tiède. De la trompe d'éléphant, je suis en train de me tromper. j'ai jamais pu savoir comment il s'était procuré l'éléphant.
Si, il avait tout, mon corcelet m'a fait bouffer des mouches, des trucs comme
oui,
ça.
Oui, ça aussi, j'ai tout mangé.
Ah oui, mais
de la paume
d'ours, je le ferai plus.
La droite. la meilleure, celle qui prend le miel et qui le porte à sa bouche. C'est pour ça que ça adoucit la peau. Donc voilà pour une anecdote gastronomique.
De François Robot, notre chroniqueur gastronomique.
Serge Beckett, c'est le sosie craché du lieutenant Alan dans Tintin.
Fayot.
Non, il est. Non, le lieutenant.
Fayot, l'auditeur, là.
Le visage en lame de couteau. Enfin, je vois bien, oui, c'est dans. Hein, j'ai un visage en lame de couteau, oui. En lame de Kanjar.
Vous faites ronchonner les auditeurs. Enfin, ronchonner, beaucoup dire. Oum Papa n'était pas dans Pilote, mais dans Tintin. Ah bon? Uderzo et Goscinny ont eu plusieurs clients.
C'est mais non, mais il était. Attendez, alors. Oum Papa a paru d'abord dans Pistolin,
oui,
qui était un petit journal quasi confidentiel, où il y avait les premières bandes dessinées de Uderzo et Goscinny. Goscinny, à l'époque, était même dessinateur. Il faisait le capitaine Bibobu. Il dessinait très mal. C'était déjà très drôle, mais il dessinait très mal. Non, on n'induit pas en erreur, mais on cause.
Mais Oum Papa et son frère Double Scalp.
Alors, un autre auditeur nous dit, alors, monsieur Beckett, on fait de la désinformation? J'ai lu Oum Papa et Hubert de la pâte feuilletée,
alias
dans Tintin et non dans Pilote.
Ben voilà,
non, ce n'est pas dans Pilote.
Je suis égaré par ma mauvaise mémoire, mais je me souviens que Hubert de la pâte feuilletée s'appelait donc était appelé Double Scalp et qu'il n'aimait pas le pémican, contrairement à Oum Papa qui lui aimait ça. Et curieusement, Oum Papa c'était une préfiguration d'Obélix quand même.
Et il y a eu une époque où alors. À cette époque-là où il y avait Oum Papa et tout ça, il y avait une bande dessinée, texte de Goscinny et dessin de Saint-Pé, et au départ, le petit Nicolas était une bande dessinée. Mm-hmm. Et après, c'est devenu des histoires illustrées, simplement. Ouais. On pourrait parler jusqu'à demain soir. Hein.
Ah ben c'est intéressant. Non mais c'est quand même toute notre c'est jeunesse.
C'est intéressant, oui.
Oui, c'est intéressant. Alors justement, à propos de ça, un auditeur nous dit... messieurs, n'oubliez pas que M. Schueller a grassement entretenu un certain François Mitterrand comme directeur de votre
boutique. Oui, on l'a dit.
Mais, bien sûr, on l'a dit, mais là, on pourrait en parler très longuement. Schueller, c'était un pharmacien qui avait inventé une formule pour colorer les cheveux.
Il avait inventé une teinture pour cheveux avant-guerre, oui.
Et il a fait fortune avec ça.
Oui.
Et il avait créé, donc... un mouvement politique qui s'appelait le MSR.
La cagoule.
Qui a ensuite a donné la cagoule. Et dans l'histoire de la cagoule, il a financé la cagoule pendant très longtemps. Il a mis beaucoup d'argent. La cagoule était un mouvement anticommuniste violent. Et notamment dont les membres se sont illustrés en faisant sauter l'immeuble du patronat français rue Pierre Plumier de Serbie. On a toujours eu, il y avait trois types dans la voiture qui achetaient la bombe, d'où la bombe a été jetée. On en connaissait deux. On n'a jamais pu identifier le troisième. Moi, j'ai toujours pensé que c'était Mitterrand. On l'a envoyé là pour le mettre à l'épreuve. Parce qu'il était très, très intimement mêlé à la famille Schueller, puisque il a été embauché par Schueller. Effectivement, comme directeur de votre beauté, mais avant ça, bien avant ça, il avait embauché lui-même comme précepteur d'un de ses enfants, l'auteur des yeux de Abellio, Raymond Abellio.
Hein?
Raymond Abellio, qui était un membre de la cagoule. Un intellectuel
dur.
Oui, oui. Et donc qui avait été obligé de ficher le camp en vitesse à la libération. Mitterrand est allé chercher en Suisse et l'a fait rentrer en France, alors Mitterrand était donc à cette époque-là ministre de la Justice, je crois. Il était allé chercher en Suisse et l'avait fait rentrer en France clandestinement et lui avait trouvé du boulot comme précepteur de ses fils. Il y a des liens très très étroits entre l'équipe Schueller, la cagoule et l'entourage de Mitterrand.
Ça, je sais pas. Moi, Mitterrand, je le croisais dans l'escalier. Je savais que c'était un monsieur qui était directeur de votre beauté.
Et alors, à l'époque, il était président du club des gens beaux. Et quelques temps avant, il avait été fiancé à une dame dont on a entendu parler par la suite, qui était Catherine Langer.
Ah, qui est devenue Madame Sabag.
Devenue Madame Catherine Sabag, oui. Quand il était Mitterrand, quand il était donc tout jeune homme, est entré en contact avec Schueller, a travaillé pour lui, Et ce qui est curieux, c'est qu'on a dit, il a été nié qu'il avait appartenu à la, Kaboul, à la cagoule. Mais on constate une chose, c'est que tout, la cagoule s'est divisée en deux au moment de la guerre, au moment de l'occupation. Il y a eu une cagoule collaborationniste et une cagoule résistante. Et d'ailleurs, cette division a été illustrée d'une façon lumineuse par le destin de Corrèze, qui était le successeur de Deloncle, le chef de la cagoule, le chef militaire de la cagoule en quelque sorte. Ce Corrèze, qui avait épousé d'ailleurs la veuve de Deloncle, Mercedes, a été le même jour condamné à l'indignité nationale et décoré de la médaille de la résistance. Parce qu'il avait collaboré, il était condamné à l'indignité, et puis il avait accompli des actions de résistance héroïques, et donc il était décoré, ce qui était assez paradoxal. Mais ces gens-là ont continué à entourer Mitterrand jusqu'à la fin, oui, vraiment jusqu'à la fin. Ça explique pas mal de ces relations un petit peu bizarres. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la résistance, pendant l'occupation, les résistants de la cagoule se reconnaissaient parce qu'ils avaient tous pris des noms, des pseudonymes qui étaient des stations de métro. Mmh. Il y avait Corvisart, il y avait ils avaient tous des stations de métro. Et le nom de résistance de Mitterrand, c'était Morland, Sully Morland. Mais il s'appelait Morland simplement. Donc on est à peu près certain qu'il était réellement dans la cagoule. D'ailleurs, sa sœur Joseph Mitterrand, Marie-Joseph Mitterrand, avait été fiancée, très 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 fortement fiancée, à un jeune homme qui avait servi de ce qu'on appelle chouf, c'est-à-dire le gars qui surveille les environs, et guetteur pour l'assassinat des frères Rosselli. Et il a été interrogé par la police, et j'ai à la maison l'interrogatoire, l'original, enfin un des originaux, une des pelures de l'interrogatoire de ce personnage, qui était donc à la fois le fiancé de Marie-Joseph Mitterrand et le guetteur de l'assassinat des frères Rosselli. Donc le lien entre Mitterrand et la cagoule, il est absolument évident. C'est d'ailleurs passionnant à étudier parce que ça explique beaucoup de choses dans son comportement et dans son histoire. Et c'est amusant, je ne savais pas du tout qu'il avait été en tout cas voisin de la naissance de pilote, ne serait-ce que par...
Oui, on était dans le même immeuble, rue Boissy-d'Anglas, voilà. 11 bis, si ma mémoire est bonne. Il doit toujours y avoir la publicité de L'Oréal, là.
Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Vous préparez un... Vous continuez à faire des scénarios de films, des dialogues ou...
Non, là, j'écris plus. Non, plus vous n'écrivez... non, pour le moment, j'écris plus, je fais des petits dessins comme ça. Et puis j'ai une pièce qui devrait se jouer un de ces jours, mais on a beaucoup de problèmes, c'est très compliqué de monter une pièce de théâtre en ce moment. Une pièce qui est une bonne pièce, que des gens sont en train de répéter, puis qu'on espère jouer bientôt. Mais je vous inviterai. Carrément. Vous sauverez des billets pour la première.
On assurera la promotion auprès de nos centaines de millions d'auditeurs.
Voilà, faudra mettre votre nœud papillon et puis venir à la première.
Faudra j'en achète un.
Avec le marquis, on habille à queue. Oh,
Serge, ne dites plus scénarii. On dit scénario, c'est passé avec un S, c'est passé dans la langue.
Je sais, mais
je confirme.
C'est
francisé, accentué et accordé.
Eh bien, alors, je vais essayer de me corriger.
Mais moi, je tenais ma langue, je suis moins dur que l'auditeur.
L'auditeur nous dit aussi, je possède le premier numéro de pilote avec une tête d'Indien qui a été distribué gratuitement à la sortie du lycée Montaigne. Il y avait les premiers dessins de Goscinny et Uderzo représentant le père Hoquet.
Ouais.
Ça, c'était le numéro zéro, c'est même pas le
numéro zéro, c'est toujours.
Il y avait Barbe Rouge, ouais. Il y avait donc l'équipe, et puis le jeune Rodolphe.
Ouais.
Et il y avait également l'annonce du lancement du carnet de bord.
Ouais.
Et ça, c'était très important, le carnet de bord. Si on avait son carnet de bord, on était un vrai lecteur de pilote. Et moi, à l'époque, j'étais à l'école des pupilles de l'air, dont le journal où je collaborais s'appelait Carnet de bord. Et on était absolument indigné par ce vol de titre qui nous paraissait scandaleux. Voilà.
Et un autre auditeur vous dit, la girafe n'a pas du tout disparu, on peut la voir au musée de La Rochelle.
Ah oui, au musée de La Rochelle, il y a un très curieux musée à La Rochelle.
Et c'est la fameuse girafe de 1830, alors qu'il n'aurait pas, donc pas, pas servi de cible aux tireurs de 1916. Il y a une autre disparition mystérieuse, c'est la voiture de Sarajevo. La voiture de Sarajevo, qui est une voiture maudite.
Celle qui a servi.
Celle qui, dans laquelle était l'archiduc Rodolphe.
Qui a déclenché tout.
Et son épouse, quand ils ont été assassinés, on l'a transportée ensuite dans un garage. Et il y a un général serbe qui s'en est emparé pour se déplacer. Et il a eu un accident mortel avec cette voiture. Ensuite, donc, la voiture a été vendue à je ne sais qui est tombé en panne et qui a ameuté un paysan du coin pour que le paysan le sorte, enfin le tire avec ses bœufs. Donc ils ont attelé les bœufs à la voiture, ils ont tiré, et à ce moment-là, la voiture a brusquement démarré et elle a écrasé le bonhomme qui... Bon, il y a eu un troisième accident dont qui a tué le propriétaire de cette voiture. Alors du coup, on a considéré qu'elle était un petit peu dangereuse quand même, et on l'a exposée au musée de Vienne. Et pendant la guerre, le musée de Vienne a été bombardé et la voiture a totalement disparu dans le bombardement. On n'en a jamais rien retrouvé. C'est une très étrange histoire, la torpedo rouge de Sarajevo. Voilà.
Et puis à propos d'Abellio, un auditeur vous dit il n'est pas revenu en France par l'intermédiaire de Schueller, mais de Jean Jardin, après avoir été précepteur en Suisse de ses enfants. C'est par le témoignage du général de Bénouville qu'il a été amnistié.
Oui, c'est parfaitement vrai. D'ailleurs, j'ai pas dit qu'il était revenu en France. Vous voyez, c'est quand même extraordinaire. J'ai pas dit qu'Abellio était revenu en France par l'intermédiaire de Schueller. J'ai dit qu'il était revenu par l'intermédiaire de Mitterrand. C'est Mitterrand qui l'a fait revenir, sans doute sur les instances de Jean Jardin ou avec la complicité entre guillemets de Jean Jardin, et c'est vrai qu'il a eu un témoignage du général de Bénouville qui lui-même était un membre de la cagoule de la spirale, la cagoule militaire. Un auditeur nous dit, alors je sais pas si c'est de l'humour, mais Guy Moquet faisait partie de la cagoule, son pseudonyme Guy Moquet, c'est celui d'une station de métro. Alors, je pense que c'est le contraire. Voilà.
Serge de Beckett, puis-je vous faire, avec toute la déférence de votre rang, remarquer que oui, il vous reste à peine 20 minutes et que vous avez devant vous deux chroniqueurs qui piaffent.
J'ai pris la parole tout à fait au début de l'émission et vous avez... il y a quand même une chose dont il faut qu'on parle avec vous, c'est vrai, mais je voudrais pour ne pas...
C'est de ma faute tout ça, hein.
Ah non, pas du tout.
Je suis trop bavard.
Beaucoup de plaisir à vous entendre.
Je suis trop bavard.
On vous écoute avec plaisir. C'est Serge.
Donc, François Robot, notre chroniqueur gastronomique, je voudrais que vous nous expliquiez, que vous expliquiez à nos auditeurs ce que vous m'avez dit sur la façon dont on nourrit les amateurs de babal.
Oui, je pense que la France s'est remise au travail, comme vous pouvez le constater, sur les écrans de vos chaînes de télévision préférées. J'ai appris qu'il y avait des téléspectateurs qui se plaignaient parce qu'il y avait les mêmes matchs qui étaient rediffusés par la même équipe réalisatrice. Il fait chaud à Roland-Garros, sauf cette année. Normalement, le temps devrait s'arranger. Et sauf si vous amenez votre œuf dur et votre sandwich et que vous le cassiez sur la tête de votre voisin, avant, c'était pas terrible pour se nourrir. Et depuis cette année, des progrès considérables avec des investissements colossaux ont été réalisés par une société qui s'appelle la Sogeres, qui est une filiale de la Sodexo, qui est la société de restauration hors foyer la plus importante au monde. Elle nourrit actuellement les GIs en Irak, c'est pas une référence, mais ça prouve qu'ils ont quand même réussi à avoir des marchés mondiaux. Et cette société qui opère à Roland-Garros dans des installations ultra-modernes s'appelle l'Affiche. Et elle propose, dans les jardins de Roland-Garros, sous des chapiteaux qui ont été bien aménagés, qui servent actuellement au public à se réfugier des averses nombreuses, ce qui fait qu'il y a embouteillage. Et là, on peut manger à un prix raisonnable des choses, somme toute, relativement sympas. Il y a un assortiment de salades que vous composez vous-même. Vous avez des pâtes qui sont cuites à la commande avec des moyens très modernes actuellement, que vous assaisonnez à votre goût, avec de la tomate, avec du parmesan, enfin avec tous les ingrédients classiques. Il y a également des planchas qui vous permettent de manger un morceau d'agneau, une côtelette d'agneau, un steak, tout ça est assez rapide. Il y a ceux qui boivent de l'eau, et c'est recommandé, surtout quand le soleil va revenir, ceux qui boivent du vin modérément, ceux qui en boivent un peu plus. Et alors à ce moment-là, on les retrouve dans les gradins, et ils piquent un roupillon extraordinaire. Ça leur a coûté quand même très cher, parce que si le plat que proposent les jardins de Roland-Garros est accessible, les entrées quand même sont assez importantes.
Qu'est-ce que ça coûte une entrée
Je ne sais pas, parce que je vais vous dire une chose, j'avoue, j'ai été invité.
Ah bah oui,
voilà.
C'est normal, les gens.
On m'a donné un petit billet, billet d'entrée, hein, c'est tout, ça s'est limité à cela. Voilà. Et alors j'ai été très surpris, il y a une pléthore de vendeurs à la sauvette extraordinaire.
Ah bon
comme diraient certains journalistes qui ne sont plus en activité, que fait la police? Là, vraiment, il y en a partout, billets, et ils sont bilingues, car ils vous disent aussi ticket, si ça vous intéresse.
Ticket,
alors, il y a aussi un autre aspect de la restauration. Si vous avez la chance d'être invité, j'ai horreur de ce mot VIP, là, VIP, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il y a 18 exposants au village, et un restaurant qui s'appelle le Club des Loges. Et là, la cuisine est assurée par un traiteur qui évolue là-bas depuis 20 ans, c'est Potel et Chabot. Alors là, il y a une restauration d'assez haut niveau, n'ayons pas peur de le dire, de très grande qualité, avec je crois que le record, ça va être 17 000 bouteilles de champagne qui seront consommées pendant les internationaux. Je dois vous dire aussi que les joueurs mangent et payent leur repas. Tout ça n'est pas pris en compte par la Fédération française de tennis. Peut-être sont-ils défrayés, mais ils gagnent tellement d'argent qu'ils peuvent quand même se payer des repas relativement équilibrés avec des sucres lents. Et il y a le restaurant des joueurs qui est assez intéressant à visiter. Malheureusement, il n'est pas ouvert au public.
Mais j'ai vu qu'il y a eu des petits reportages qui ont été donnés sur d'autres radios, et notamment un petit reportage sur la caisse où on paye les joueurs.
Ah ben ça, j'ai pas vu la caisse où on paye les joueurs, mais on peut pas les payer en liquide, c'est interdit,
non,
au-dessus d'une certaine somme, on leur donne un chèque.
Alors il y a deux jeunes filles qui sont là et qui racontaient d'ailleurs que un tel joueur lui venait chercher ses chèques lui-même tous les jours, pas tous les jours par exemple, non, ils sont payés en réalité quand ils quittent le tournoi, mais venaient chercher des avances tous les jours. Un autre, c'était sa femme qui venait chercher des avances pour... Et un troisième, c'était son entraîneur. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens qui ont été éliminés au premier tour ont eu des chèques de 14 000 euros.
Oui, c'est une première. Cette année, il y avait prime à la première joueuse, au premier joueur qui se ferait éliminer du tournoi.
14 000 euros, c'est quand même pas mal pour un match de tennis.
Donc à la limite, ça vaut le coup de se faire battre.
Quand on aura fini d'envier ces joueurs, on dirait un mot du livre de Catherine Tanvier qui vient de paraître et qui raconte qu'elle était non seulement exploitée financièrement, mais carrément violée régulièrement, et qu'elle n'était pas la seule de cette génération. Une jeune fille de Mongeau a pleuré dans ses bras. Enfin, c'est un livre absolument pathétique et qui donne du sport professionnel et de l'argent roi une image vraiment sordide et désastreuse.
Ben, l'image du sport, on en a eu un autre exemple récent avec la petite Maurice Mou, Manodou. Je trouve que l'image du sport n'est pas bonne du tout.
Le marquis attitré, Manodou est le roi des hircons dans le Libre Journal, parce que son petit ami a un faux diamant dans l'oreille et le marquis l'appelle le roi des hircons.
S'il le perd en nageant, il vaut mieux quand même que ce soit un faux, parce que sinon ça va faire une compétition très chère.
C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a... D'abord, je comprends pas comment ça marche, parce que qui paye là? Qui paye ça? Qui fait cet apport formidable d'argent?
Les télés,
les radios,
mais
et les entrées.
Non, il y a aussi le village, parce que le village dont a parlé notre ami tout à l'heure,
oui, bien sûr,
il est sponsorisé en fait par... je reçois plusieurs invitations.
Jean-Pierre Rondeau.
Mais il faut nous en faire profiter, mon cher Jean-Pierre, nous sommes disponibles.
Un peu dans la finance, puisque là ce sont une compagnie d'assurance ou une banque.
Et la BNP, ah mais moi je suis dans la finance, moi je suis un gros client.
Vous invite pour avoir de bons,
c'est plutôt des huissiers,
de bons liens avec nous. Et donc, Potel et Chabot, moi je n'y vais d'ailleurs, je ne suis pas un passionné de tennis, mais j'y vais de temps en temps parce que j'aime bien le champagne. Et donc
n'abusez pas du champagne, parce qu'après vous retrouvez dans la tribune officielle et la sieste est assurée jusqu'à 5h de l'après-midi. Vous regardez les comptes rendus à la télévision. Mais les sponsors payent très cher leurs très emplacements. Très cher, les loges aussi, il y a énormément de sociétés.
Au Stade de France, hein, c'est
oui,
pareil.
C'est le même système.
Mais mon ami Bonal, qui est monégasque, il a habité toute son enfance à Monaco et il s'en est sauvé. Il publie d'ailleurs dans le prochain numéro un papier assez terrible sur Monaco, sur ce que c'est devenu, dans le prochain numéro du Libre Journal là, qui sort. Et me disait que le comble du spectacle sportif grotesque, ridicule, sans intérêt, c'est la fameuse course de Monaco, hein, puisqu'il n'y a pas de dépassement possible. Donc les gars partent dans un ordre qu'ils ont acquis au moment des essais. Et il y a au départ un dépassement possible entre les deux premiers, mais après c'est fini. Et donc pendant 72 tours, les gens regardent passer des voitures qui font du bruit, qui font de la fumée. Il me disait que Monaco devenait encore plus pollué que d'habitude et que pour regarder ça, un balcon, une place de balcon se louait, mais des prix mais totalement délirants, je sais pas, 1000 euros pour pouvoir rester à regarder 72 fois passer la même Maserati.
Un des endroits les plus prisés, c'est le grill de l'Hôtel de Paris. Au rez-de-chaussée, vous avez le Louis XV, qui est tenu par le célèbre chef Alain Ducasse, et au grill de l'Hôtel de Paris, là je ne vous dis pas l'entrée, et le prix exceptionnel du repas ce jour-là. Avec champagne à volonté, bien sûr, on retrouve toujours le champagne, mais ça coûte effectivement beaucoup, beaucoup d'argent.
À propos de champagne, il faudrait que je vous en offre, parce que les lapsus tombent aujourd'hui. Enfin, c'est un auditeur à la courtoisie de mettre ça sur le compte de lapsus, qui est vrai d'ailleurs. J'ai dit qu'à Sarajevo, c'était Rodolphe. C'est évidemment pas l'archiduc Rodolphe, mais l'archiduc François Ferdinand, qui a été tué à Sarajevo. Ça, c'est un lapsus qui ne fait pas monter ma réputation dans les milieux historiques. Vous voulez nous dire quelque chose à propos de...
Je voudrais savoir si je fais cette annonce qui n'était pas prévue.
Bon, bah faites-la donc.
Faites votre annonce.
Les conférences de Nouvelles de Chrétienté. Alors, jeudi 7 juin, à 20h, la libération de la messe et la situation de l'Église aujourd'hui. Conférence de Son Excellence Monseigneur Bernard Fellet, supérieur général de la Fraternité sacerdotale Saint-Pilice, au Palais de la Mutualité, 24 rue Saint-Victor. Métro Maubert, entrée 5 euros, étudiant 3 euros. Et puis je rappelle le titre. Attendez. On nous a demandé les coordonnées de M. Rondeau. Alors, le téléphone 01 44 51 62 20. L'adresse Mégara, M-E-G-A-R-A, Finance, 9 Place de la Madeleine, Paris 8e. Et email jprondeau@megarafinance.fr. Ouais. Ce sera répété demain, si vous voulez, au secrétariat.
Alors, on n'a pas dit que les livres de Raymond Forlani, écrivain, poète, auteur de théâtre, chroniqueur, dessinateur et autres choses découvertes à marée basse,
oui.
sont aux éditions textuelles.
Textuelles, oui.
Et
de Noël.
Voilà. Et de Noël. Ce sont des albums. Et vraiment, je raconte, c'est ravissant. Alors, les éditions textuelles, c'est 48 rue Vivienne, dans le 2e arrondissement à Paris. Enfin, une adresse humaine.
Je rappelle le dernier titre, ça s'appelle Comme chien et chat.
Comme chien et chat. Le précédent, c'était 425 chats. Leurs chiens et autres bestioles. Et puis chez De Noël, c'est Du bon usage des chats. C'est très très joli. Moi, j'aime beaucoup beaucoup ces petits livres.
Fais pas dire le contraire. Ah, allez.
Non, c'est vrai. C'est.
Peux pas avoir l'air de vous contrarier.
Ils sont plaisants, ils sont insolents, un petit peu impertinents.
Je voulais savoir, Rémo, 425 chats, ça représente combien de paquets de cigarettes?
Ça en prend beaucoup. Et vous savez, j'en ai fumé. J'ai fumé deux bons paquets par jour. Pendant mon premier paquet de cigarettes, c'était à la Libération. Il y avait des Américains qui vous jetaient des Lucky à la gueule. Ah, ils ont fait ça quand même. Ils étaient sur leur camion, puis ils jetaient des paquets. Et j'en ai ramassé un pour le donner à des copains. Et puis finalement, j'ai commencé. Et trois jours après, j'allais à Pigalle pour trouver dans les portes cochères des cigarettes au marché noir. J'ai fumé pendant 60 ans. Et plus de 60 ans, 65 ans, j'ai eu un bon cancer, c'est bien fait pour moi, le petit Jésus m'a puni, mais je ne regrette pas d'avoir fumé pendant 65 ans, c'était excellent. Voilà. Mais le petit Jésus m'a puni. Normal.
Je ne crois pas que c'est le petit Jésus qui punit ça. Je crois que ça se passe.
Si. Vous n'y croyez pas?
Je crois au petit Jésus, mais je ne crois pas qu'il punit.
Ah, au Quintet, on m'avait un peu appris ça, quand même.
Ah oui, mais ça, les curés disent ça pour faire peur, mais ils ont pas
raison. C'est la maman qui dit, si t'es sage, t'iras au ciel, si t'es pas sage, t'iras en enfer, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au cirque?
C'est très mignon.
Ben pour aller au cirque, on
François,
peut aller
vous vouliez nous donner une adresse non.
Je vous en parlerai la prochaine fois. Restaurant qui est tenu par un jeune Breton, Mathieu Garel, le Bélissère. Le Bélissère, c'était
un général de Hoffmann, c'est tout. De Byzance.
J'ai rien à dire. Moi, j'ai été potassé dans le Dico parce que je ne savais pas. Bah, j'habite à côté de cette rue. Un excellent rapport.
Chez Perrin, il y a une biographie de Bélissère qui est très. C'est un personnage remarquable, très émouvant, un grand général.
Oui, je sais qu'il a battu les Vandales.
Il a bien raison.
c'est ce que j'ai retenu.
Bon, alors donc, on parlera du Bélissère la prochaine fois.
On parlera plus en détail. C'est une affaire d'un excellent rapport qualité-prix.
Et Jean-Pierre Andoux, j'ai vu alors que vous étiez membre du conseil scientifique d'une association. Je ne sais pas, ça s'appelle Pierre et Papier. Et qu'est-ce que c'est? C'est une association? C'est un groupe de...
Non, c'est un groupe, en fait, d'information, donc, qui vient de se créer, qui est un peu dans la mouvance d'un organisme qui est très connu par tous ceux qui travaillent dans la finance, donc, qui est l'Institut de l'épargne immobilière et foncière.
Mais ils vendent rien?
Leur but n'est pas de vendre. C'est-à-dire que sur le site, ceci étant, ils analysent quand même les différents placements immobiliers qu'on appelle papier, hein. Et donc, à partir de là, certains peuvent effectivement faire leur choix. Voilà. Mais donc, on peut aller naturellement derrière. Les Français connaissent assez bien les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier, qui sont assez bien connues des gens qui sont épargnants. Et puis, il existe les foncières cotées, qui cotent en bourse et qui sont aussi du domaine de l'immobilier. Donc, ça touche plus particulièrement...
Alors, c'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait faire un placement... comme ça, dans une société civile de placement immobilier, avant de faire son choix, il peut consulter, il peut s'informer auprès de Pierre Papier, pour savoir quels sont les avantages.
Il peut aller rechercher, donc c'est un site tout récent. On m'a demandé d'en être un des 5 membres du comité scientifique. Le président de ce comité scientifique est Guy Marty, le président de l'IEIF que je citais. Un autre personnage est assez bien connu, c'est François De Witt, hein, qui intervient, enfin qui écrit dans Mieux Vivre, mais qui fait une rubrique quasiment quotidienne à France Info, et qui a été quelquefois, au moins une fois, je l'ai entendu, invité de Radio Courtoisie. Donc voilà.
Donc c'est une caution quand même.
C'est une caution, voilà.
Attendez, parce que je crois que François veut nous dire quelque chose, mais avant, il y a un moyen de les joindre, ces gens-là?
Il y a surtout le site, je pense qu'il est intéressant, ouais. C'est www.pierrepapier en un seul mot et sans S, et .fr.
Alors, www.pierrepapier.fr. Voilà, si vous cherchez à placer de l'argent dans l'immobilier, une fois que vous êtes abonné au Livre Journal, ce qui vous reste, vous...
À la différence de l'immobilier en direct, c'est qu'on est propriétaire de parts, comme on l'est à travers des SICAV ou des fonds communs. Dans le cadre des foncières, eh bien, c'est coté en bourse, donc avec les évolutions éventuelles de marché. Ceci étant, sur du long terme, c'est assez sécurisant. Et la deuxième chose, les SCPI, donc voilà. Je voudrais quand même juste passer une petite info, parce qu'on était, j'étais intervenu il y a quelques mois sur le prêt hypothécaire viager, hein. J'avais dit que ça allait sortir. Donc il y en a un qui vient d'être mis en place par un grand organisme. Si on veut savoir le nom, il vaut mieux m'écrire ou me téléphoner. Et donc j'avais dit qu'il fallait pas en attendre des miracles. Pour une personne qui a 75 ans et qui voudrait donc bénéficier d'un tel prêt pour assurer ses vieux jours ou compléter ses revenus, aujourd'hui on prête l'organisme prête 30 à 35% de la valeur du bien estimé. Voilà. Et le taux est quand même relativement cher, c'est 8%.
Une question d'actualité rapide. On nous laisse entendre que les exemptions d'impôts très généreuses dont M. Sarkozy se gargarise jusqu'au Havre à la veille des élections.
vont causer encore une autre flambée des prix immobiliers parce que, nous dit-on, les agents immobiliers prendraient en compte ces diminutions d'impôts, ces exemptions d'impôts sur les crédits immobiliers et augmenteraient déjà leurs prix d'autant.
Ça peut être un phénomène, mais bon, c'est à la marge. C'est pas,
je crois pas. J'ai l'impression que là, de toute façon, les prix atteints sont des prix prohibitifs.
Voilà, aujourd'hui, on est aujourd'hui le marché, je l'ai dit la dernière fois, mais le marché est passé de la main des vendeurs à la main des acheteurs aujourd'hui. Ouais. Je suis pas sûr. Bon, il a été ralenti ces derniers temps par le justement parce qu'on attendait ces mesures et je pense qu'il va un peu repartir, mais il repartit. Je crois qu'on est dans une période où il faut s'attendre à une correction, pas obligatoirement sévère, mais à une correction. Je rappelle juste que ce matin, la bourse chinoise a baissé de 6%. Pendant toute la journée, la bourse française était relativement en baisse de 1% et elle a terminé à moins 0,20 parce que New York a ouvert en hausse. Mais que ça fait partie de ces phénomènes de danger actuels que je dis sur les marchés boursiers. Voilà.
Et un auditeur demande, dans les prévisions de Sarkozy pour les frais de succession, s'agit-il des successions directes seulement ou aussi des successions indirectes?
Pour l'instant, on ne le sait pas. C'est a priori des successions directes. Éventuellement, les enfants venant en représentation des parents quand les parents sont décédés.
On sait à peine qui est ministre. Ce matin, sur France Inter, la spécialiste envoyée par la radio avouait qu'elle n'y comprenait pas grand-chose et que même la personne chargée de donner la liste ne pouvait pas répondre à la plupart des questions qu'on lui posait. Il y a quand même une certaine confusion.
Parce que je pense qu'actuellement, il n'y a pas vraiment de travail. Il y a surtout annonce en vue des élections. Point.
François, vous voulez...
Un auditeur nous téléphone pour me signaler que si je n'aime pas le terme VIP, je peux toujours utiliser l'expression VIP. Ouais. Et au masculin, vieux corbeau. Alors j'en profite pour vous donner une recette de Jean-Yann. J'ai beaucoup apprécié Jean-Yann à une époque. Je pense que Raymond, vous l'avez connu aussi.
Très bien, oui.
Donc vous prenez un corbeau, vous prenez un fer à repasser, un faitout, vous le remplissez d'eau, vous mettez un bouquet garni, vous plongez le corbeau, vous plongez le fer à repasser. Quand le fer est mou, le corbeau est cuit. Voilà. Bon appétit.
Il en a fait un film d'ailleurs, non, le corbeau.
Merci de cette recette que je conseille à nos auditeurs d'essayer rapidement.
Un auditeur demande la date du concert du chœur, de le rappeler, la date du concert du chœur Montjoie-Saint-Denis chez la Mère Agitée. Alors ce sera le mercredi 6 juin à 20h30 et je ne sais pas si ce sera ratatouille ou cochon, au cochon ou ratatouille au poulet.
Ah ben on peut peut-être remettre le couvert pour Anne Brassier aussi, qui réunit beaucoup d'écrivains et de journalistes à Mérignac, à côté de Bordeaux, dimanche 3 juin prochain, au château Pic-Caillou. Renseignements au 05 56 97 84 67.
Voilà, et puis, puisqu'il nous reste 2 ou 3 minutes, je voudrais rappeler que le dernier, et là on peut vraiment dire ça, le dernier ADG est paru, il s'intitule « J'ai déjà donné », il est paru aux éditions Le Dilettante, et c'est, je le répète, je crois son meilleur bouquin, il est d'une écriture magnifique.
Il y a aussi un livre de témoignage chez Godefroy de Bouillon, qui s'appelle « Pour venger ADG », juste ADG. Comme le site internet.
Oui, alors ça, si... Et puis, il y a une association qui a été créée, l'Association des Amis d'ADG, à laquelle nous adhérons tous, et je vous invite à le faire. L'avantage, c'est que l'adhésion à l'association permet d'avoir un prix spécial sur le livre et de recevoir gratuitement celui dont vous venez de parler, paru aux éditions de Godefroy de Bouillon. Donc on récupère le montant de son adhésion. Il n'y a pas de petit profit. C'est tout. Nous n'avons plus de message. Nous n'avons pas de...
Non, on a rappelé le titre et l'éditeur de l'ouvrage de Raymond Forlami. C'est Textuel.
Textuel.
Bien sûr. Textuel, voilà. C'est l'éditeur. Voilà. Et le titre.
Et alors, les titres, oui, c'est 425 chats.
Oui, oui, oui.
Et comme chien et chat. Et Raymond Forlani, une dernière question, puisqu'il nous reste 3 minutes, 2 minutes. Je m'adresse là aux professionnels de la radio. Depuis 55 ans, vous nous avez dit. Quelle impression vous fait ce genre d'émission qui ressemble à une émission de radio comme moi je ressemble à Brigitte Bardot?
C'est de la vraie radio, c'est ça qui est bien. Non, mais ce qu'on peut regretter dans les... Bon, c'est vrai que je travaille sur RTL, par exemple. RTL, on doit... Mais même, d'ailleurs, à RTL, on me garde quand même parce qu'on est gentil. Je suis le vieux de RTL. C'est comme pendant l'occupation, dans chaque société, on gardait un juif.
Oui.
Là, moi, je suis le vieux de RTL. Sans blague. Normalement, je suis à la retraite et tout. Bon, ils m'aiment bien, puis je suis pas plus emmerdant que les autres, quoi. Mais je veux dire, et peut-être ma qualité par rapport aux autres journalistes de RTL qui sont, pour la plupart, beaucoup meilleurs journalistes que moi, bien meilleurs journalistes que moi, c'est que justement, moi, je bavarde, je déconne, je raconte des blagues, je parle de ma grand-mère au lieu de parler du film qu'on m'a envoyé voir. Et c'est ça qui amuse les gens. Et ici, c'est ce qu'on fait, c'est ça qui est bien.
Ben merci. Merci en tout cas de nous écouter, parce que je sais que vous le faites.
Je vous écoute très souvent, mais des fois je suis en colère. La preuve, je vous l'ai prouvé ce soir. Ben,
alors, vous revenez. Alors, c'est pas une parole verbale, c'est pas une invitation en l'air.
Si ça vous amuse, en colère contre vous, je viendrai.
Voilà, si ça vous amuse, vous venez.
Les émissions que j'écoute chez vous, maintenant je prends un papier, un crayon, et puis une fois de temps en temps, je viendrai vous faire le récapitulatif de mes doléances.
Qu'on sorte un peu de notre ronron d'autosatisfaction.
Absolument.
C'est vrai que vous avez fait exploser tout à l'heure.
Oui, c'est bien.
Comment ?
Au moment de Maigret, c'est vrai que vous avez fait exploser le ronron.
Faire le gauchiste de Radio Courtoisie. Il vous en fallait un. Il y en a bien chez Sarkozy, pourquoi il n'y en aurait pas un ici ?
Merci beaucoup, Rémo.
Merci
François, merci Jean-Pierre, merci Patrick, merci Victoria. À dans 15 jours, sauf erreur de ma part, ce qui est vraisemblable parce que je me trompe à peu près à chaque fois. D'ici là, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur notre site internet Radio Courtoisie, on m'a encore pas donné le bon, Radio Courtoisie, dites-moi tout Serge, c'est quoi ? RadioCourtoisie.net. Vous venez d'entendre, merci Monsieur Kaufmann, vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Beketch, assisté de Victoria, et comment ? Diffusé en direct mercredi, ça y est, je suis encore plus, mercredi 30 mai 2007, de 18 à 21h, en différé jeudi 31, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie, Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franco de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Les prochaines rediffusions et dernières rediffusions de ce libre journal de Serge de Beketch d'hier soir, tout à l'heure à partir de 7h30.